Dans les prochains mois, je vais être pigiste, je vais être à mon compte pour répondre à ces questions-là aussi. La communication reste dans ma vie, je vais rester dans certains médias, mais je pars en tant que Pascal CV. Donc, ce sera moi qui va développer un peu mes projets, mes reportages, je vais être sur le terrain. J'avais envie de ça, ça fait 2 ans que j'ai réfléchi, puis le Kilimandjaro m'a amené à cette réflexion supplémentaire-là. Donc oui, on ouvre les micros pour une dernière fois ensemble, Mathias et moi. Salut Mathias.
Bonjour.
J'espère que tu vas bien.
Ça va bien, toi, Pascal? Comment ça va?
Ça va bien.
T'as-tu un peu de stress par rapport au fait que justement, c'est la dernière fois que tu ouvres les micros, tu t'embarques dans de quoi qui est un peu inconnu, j'ai envie de dire?
Inconnu, oui, parce que j'ai jamais chapeauté le fait d'être pigiste, mettons, à mon compte, dans ce domaine-là qui est le mien depuis maintenant plus de. Hey, je vais toucher 15 ans dans pas si long, là. Donc, j'ai un micro depuis que je suis assez jeune, là. J'avais même pas 20 ans que j'avais un micro, puis ça fait partie de ma vie, un peu comme un sportif, là, un footballeur, un joueur de hockey. Tu te dis, oh, tout ce que je connais dans cette vie-là qui m'a définie pour plusieurs années, puis depuis plusieurs années, c'est de me lever le matin, faire ma revue de presse, aller travailler à la radio, vous parler, travailler dans plusieurs villes, oui, mais toujours sur les gros dossiers d'actualité. Ça a toujours été sur mon parcours. Puis, ça m'a amené à découvrir le Québec, la province de Lac-Mégantic à Montréal, à La Beauce, à Québec. Ça m'a fait grandir comme personne. Toutes les personnes que j'ai rencontrées pour des conversations, des interviews, des problèmes que les gens nous amènent, nous rapportent, puis que nous, on essaie de déceler, puis essayer d'aider aussi. Ça fait en sorte que c'est ça qui me rend fébrile aujourd'hui. Ce qui me rend fébrile, c'est que j'ai pas de repères. Mes propres repères, c'est moi qui vais les définir pour la suite des choses. Fait que ça, c'est une fébrilité. C'est la première fois en autant d'années aussi que j'ai pas un micro fixe à la rentrée, hein, la fameuse rentrée. Pour moi, c'est une rentrée scolaire que j'appelais habituellement en radio.
Et ça offre une stabilité, ça
Ben
aussi.
oui. Puis là, je me lance un peu dans le vide. J'étais amatrice de parachute pendant longtemps. J'ai l'impression de le faire au niveau professionnel. Mais il y a un petit quelque chose à l'intérieur de moi que je me suis toujours dit, si je le fais pas avant de peut-être avoir des enfants, j'ai peur de le regretter. Je pense que l'avantage dans la vie, c'est de partir en bon terme de partout où tu pars, que ce soit d'une relation, que ce soit d'un travail, que ce soit d'une amitié, si tu as besoin de quitter une amitié. Et ça a toujours été un peu mon mantra. Fait que je peux dire que partout où j'ai quitté, ça s'est fait en bon terme, dans des discussions, soit business ou d'adultes, avec beaucoup de respect. T'sais, si je suis là encore cet été, c'est parce que dans le bureau, à porte fermée, le jour où je l'ai annoncé au patron ici que j'allais quitter pour la prochaine saison, ça a été une superbe conversation. Ils ont compris ce que je recherchais pour les prochains mois, voire la prochaine année. Et moi, j'ai aussi compris de leur côté qu'il y avait un besoin pour l'été. Fait qu'on s'est serré la pince, on s'est serré la main, puis je dis, ben oui, on le fait. Puis eux étaient comme, merci. Puis ils m'appuient aussi dans ma décision pour la suite des choses. Donc, j'ai attendu jusqu'à aujourd'hui avant de l'adresser clairement, de le dire en ondes, de dire qu'est-ce qui s'en vient pour moi. C'est pas une histoire d'avoir démarché quelque chose ailleurs. C'est pas une histoire d'avoir accepté quelque chose ailleurs. J'ai vraiment juste choisi ma personne pour la prochaine année. Il y a plein d'histoires sur le terrain que j'ai envie de vous raconter. Il y a plein d'aventures que j'ai toujours vécues puis que je me fais écrire sur mes réseaux sociaux. « Hein? Pourquoi t'en parles pas? Pourquoi on voit pas ça? Où on peut... » Puis j'avais pas de plateforme. Là, j'ai fait ce choix-là. Puis je me dis, probablement que mes prochaines aventures, ce sera la maternité ou quoi que ce soit d'autre. Mais là, c'est ma dernière chance. C'est ma dernière chance d'aller toucher ça. Puis l'avantage qu'on a, c'est que ces micros-là, à la radio, là, ici à Québec, ils vont toujours exister. Ils seront toujours disponibles pour jaser avec des animateurs que j'aime, que ce soit Yann, on va s'appeler, on va... Mais... Ou n'importe quel autre collègue. Puis tu sais, tantôt, on reçoit Rick Loutier, un homme avec qui j'ai travaillé pendant de nombreuses années, commentateur sportif, pour nous parler de la prochaine saison, la rentrée à l'automne dans le sport ici à Québec, puis même dans le monde. Partout où on passe dans la vie, la qualité des relations, c'est juste ça qui importe. Puis tu sais, il y a des moments où tu te dis, je peux être dans un contexte tellement difficile, un contexte, je vais nommer de merde, Mais selon les gens qui t'entourent, la qualité des gens qui t'entourent, ça fait toute la différence.
Puis toi, tu ressens ça, que tu as réussi à bâtir ça autour de toi dans ta vie professionnelle?
Dans ma vie professionnelle, je trouve que j'ai bâti de très bonnes relations, mais je recherche encore plus ce genre de terreau fertile-là. Puis c'est pas contre personne, là, ça n'a rien à voir. C'est pas des gens qui m'ont déçu, c'est pas ça. C'est que dans l'épanouissement, il y a quelque chose qui est extrêmement libérateur. Puis pour ma suite, j'ai besoin de cet épanouissement-là.
Fait que c'est pas un stress, c'est un peu plus une fébrilité, j'ai envie de dire.
C'est pour ça que je nomme fébrilité.
Puis en même temps, c'est normal, parce que je sais pas s'il y a certains auditeurs qui nous écoutent qui ont eu un changement de carrière au cours des dernières années, des derniers mois, même des dernières semaines, parce que des fois, on en a parlé cette semaine.
Oui.
Quand vient l'été, tu te remets en question, tu décides de changer de milieu. Mais c'est quand même toute une étape dans une vie. Là, tu changes d'horaire,
ben
tu changes
oui.
de milieu, tu changes de routine.
Puis ça se peut, Matt, que je fasse « ben non, c'est pas ça ». C'est pas ça que je voulais, c'est pas ça que je veux, c'est pas ça que je
mais
souhaite
tu
pour
l'auras
la suite.
Essayé.
Mais je vais l'avoir essayé, puis ça m'appelle depuis longtemps. Quand je suis partie en Europe, là, toute seule, à me louer une voiture manuelle, ça fait peut-être 2 ans, on se connaissait pas. Déjà là, je retrouvais une liberté, puis je m'étais connectée sur Twitch, puis je répondais aux questions des gens, puis il y a quelque chose qui m'appelle d'aller voir sur le territoire. Tu sais, on est, oui, petit à Québec, mais il y a plus grand, puis tout est interrelié, puis qui a une histoire, puis quelle aventure je peux vous faire vivre par procuration. Parce que moi, j'aime ça tester ces affaires-là, puis ça m'anime. On verra. Si j'aime ça, mais je suis certainement dans cette leçon de vie-là. Là, à ce moment-ci dans ma vie, je suis dans la leçon de vie que j'ai le goût d'incarner. Fais-le parce que tu ne veux pas regretter.
Vas-y à fond.
Moi, si les patrons m'appellent ici, les collègues m'appellent ici, je vais toujours répondre présente le plus possible parce que j'adore la famille de Boulevard 102.1. J'adore l'éthique de travail, j'adore de... Je vais répondre. T'sais, c'est drôle parce qu'hier, dans ma boîte courriel, j'avais déjà « Hey, telle date, serais-tu game de revenir remplacer? Tu voudrais-tu faire tel show? » Fait que c'est toujours une super belle preuve de confiance. Puis je réitère et je répète, c'est pas une leçon déloyale envers qui que ce soit ici à Boulevard 102.1. Fait que je voulais l'adresser. Merci pour vos messages au 88-971-102.1. C'est un privilège, puis ça va me manquer.
D'avoir l'auditoire, d'avoir la proximité qu'on a avec les auditeurs.
Puis avec toi, puis avec une gang, tu sais, se réveiller le matin avec une gang qui n'est pas ta famille, qui n'est pas ton chum, qui n'est pas tes amis normaux là, dans ta vie au quotidien. C'est particulier, là. On passe plus de temps ensemble, probablement que les gens qui nous écoutent aussi, qu'avec notre propre famille. Il faut redéfinir des fois ses priorités parce que tu arrives à la maison, tu es fatigué, puis là, tu es comme marabout, puis là, tu es marabout avec qui? Tu es avec marabout avec ceux que tu aimes le plus, avec qui tu as le goût d'avoir une plus grande richesse de relations. Fait que là, faudrait juste se réorienter une fois de temps en temps. La campagne électorale, ça va me manquer, là. Tu sais, ça, là, de la commenter au quotidien,
ah,
tu
ça,
me connais.
C'est sûr. Mais c'est quand même beau ce qu'on réussit à créer avec la radio, le lien de proximité qu'on
oui.
se crée entre nous autres, la façon qu'on est capable de s'ouvrir aux auditeurs puis qu'on a l'impression que c'est pas un show qu'on fait à deux, là. C'est
non.
un show, on est une grosse gang ensemble. On se tient, tu sais, la discussion qu'on réussit à créer, les émotions qu'on vit toutes ensemble au même moment. Je me mets à ta place puis je m'ennuierais de ça aussi.
Ben oui, mais
c'est un privilège.
C'est un privilège, faut le chérir. Puis moi, c'est sûr que je vous lève mon chapeau pour m'avoir laissé cette place de choix là depuis plusieurs années. Rentrer dans votre quotidien, les premiers cafés qu'on prenait ensemble, chaud ou froid selon nos tâches du matin. Tu sais, je suis rentrée ici avec l'équipe du matin. Puis j'ai découvert des gens, des travailleurs exceptionnels. Max, je le rencontrais, puis c'était un gars qui savait pas trop comment prendre toute la charge de travail qui était devant lui. Il s'est rendu un animateur d'une émission. Il est excellent, il est brillant. Fait qu'on évolue aussi à travers l'évolution des gens autour de nous. Puis ça aussi, c'est une richesse.
On se pousse vers l'avant.
Puis ça, c'est pas toujours. Puis ça, c'est un clin d'œil important du petit haut de mes 32 ans qui m'importe beaucoup. C'est quoi l'influence que tu as sur les autres? Il y a une phrase qu'on n'a pas assez répétée, je pense, en société, c'est « Si tu te rencontres aujourd'hui, est-ce que tu veux être ton ami? »
C'est une bonne question,
si
ça.
Je me rencontre aujourd'hui, est-ce que j'ai envie d'être ami avec Pascal CV?
Serais-tu capable d'être ami avec
J'aime
Pascal CV
J'aime-tu ça, moi,
aussi?
Cette personnalité-là?
Ouais.
Comment est-ce que je peux m'améliorer pour être une meilleure personne, la meilleure version de moi-même? Sont où mes défauts? Sont où mes... Puis tout ça, je pense que ça nous amène à prendre des bonnes décisions puis à être bon pour les gens autour de nous. Si c'est la minime chose que j'espère avoir réussir à vous atteindre dans tous les micros que j'ai fait ici, dans toutes les équipes que j'ai eues ici, c'est ce que Yann a détesté de moi par moment, la nuance.
Yann a détesté de moi.
Il y a tout le temps, oui, le noir, oui, le blanc, mais la zone grise, elle fun aussi, parce que dans la zone grise, on évolue. On se braque pas à des positions.
On discute.
On se braque pas à ce qu'on a été dans le passé, puis moi, je suis une même. Puis c'est... Non, on évolue. En politique, ça va être ça. La prochaine campagne électorale, c'est important que les politiciens comprennent la transparence. C'est correct de prendre des décisions, d'avoir une ligne de parti. Mais si on s'en va pas dans la zone grise une fois de temps en temps pour aller voir sur le plancher des vaches ou encore la sensibilité de quelqu'un ou encore la façon de voir les choses de l'autre personne, on se bute à un mur. Puis si ça, le minimum que je peux avoir accompli au micro dans les dernières années, là, c'est d'avoir allumé cette lumière-là de la zone grise, de l'écoute là, par rapport aux autres, par rapport à soi-même. J'aurais gagné beaucoup à faire ce métier-là.
Pour toi, c'est ta victoire, entre guillemets.
C'est ma grande victoire si jamais une seule personne a fait « Hey, moi, cette fille-là, elle m'a amené à réfléchir autrement parfois. »
Ah, puis honnêtement, je pense que c'est pas juste une personne, Pascal.
T'es fin. Mais ça, puis la deuxième chose auquel j'ai réfléchi dans les dernières années, c'est... Puis ça, ça me touche tout le temps. Parce que moi, j'ai une... Hey, je vais essayer de le faire bien. J'ai une petite fille de la campagne, hein? Côte de Beaupré, famille où mes parents ont eu ma première sœur. Ma mère est tombée enceinte, c'était pas prévu, elle avait 19 ans. Fait que mes parents, ils sortaient ensemble depuis qu'ils avaient 15 ans environ. Ma mère tombe enceinte de ma sœur qui a 40 ans maintenant. Moi, j'ai 32, fait que tu vois un peu l'écart d'âge. Puis ils ont tout fait pour subvenir aux besoins de la famille. Mon père est parti en affaires. Ma mère a travaillé au gouvernement toute sa vie. Ils ont essayé de tirer le meilleur de ce qui était comme petite personne non évoluée pour nous faire grandir. Fait qu'ils n'ont pas vécu grand-chose. Ils ont eu des enfants jeunes. Ils ont bûché toute leur vie pour arriver puis joindre les deux bouts. Puis ils ont tenté d'évoluer au plein potentiel de ce qu'ils pouvaient évoluer. Puis encore, aujourd'hui, ils tentent d'évoluer puis ils prennent des décisions en conséquence. J'ai toujours dit que la plus belle richesse de ma vie, c'était mes sœurs, le fait qu'on a payé mes études puis mes broches. Ça aide à être
faut d'inclure quand même. C'est coûteux en maudit.
Ah oui, c'est un château que j'ai dans la bouche puis je me le fais dire. Mais tout ça pour dire que mes parents ont eu aucune chance de découvrir la vie comme moi je l'ai eue. Ils ont eu plein de belles choses. Ils ont des trois filles qui sont à l'âge adulte, avec qui ils peuvent partager des moments adultes. Ils vont vivre longtemps, ils vont connaître leurs petits-enfants. Je ne connaîtrai peut-être jamais mes petits-enfants à 32, pas d'enfants encore. J'ai misé sur ma carrière. Il y a eu des changements de direction dans ma vie par rapport à mes relations. Je n'ai pas voulu faire d'enfants avec certaines personnes parce que je voulais choisir le père pour mes enfants si jamais j'en ai. Tout ça, on met ça dans la parenthèse, on continue. Une chose que mon père me dit à un moment donné, c'est « Si tu t'en vas raconter des histoires, raconte-le pour les gens qui n'auront jamais la chance de le faire. » Parce qu'à l'âge où ils sont rendus, ils ne pourront pas se payer des voyages, ils pourront pas... Ils vont le faire, mais ça va être des sélections. Moi, chaque année, je réalise au moins un rêve, petit ou grand soit-il. J'ai plus de budget qu'une famille. J'ai pas d'hypothèque. C'est des choix. Mais il me dit « Raconte-le, par exemple. »
Fais-le vivre.
Fais-le vivre. Si tu as la chance et quelqu'un veut t'entendre, fais-le vivre. Parce qu'il y en a qui ne pourront jamais, mais qui vont le vivre par des gens qui vont être passionnés, qui vont avoir les deux pieds dedans, puis qui vont l'amener dans des médias comme ça. Puis ça va peut-être les faire décrocher d'une journée de marde. Donc, ça va peut-être les inspirer pour eux aller faire une petite affaire qu'ils n'ont jamais pensé qu'elle allait être possible de faire. Puis je ne suis pas plus grande que personne. Mais par mon cheminement, qu'est-ce que je peux amener de positif, par exemple? Par mes choix, ma curiosité, tout ça, est-ce que je peux amener du positif aux gens autour de moi? C'est ça qui, pour la prochaine année, va me guider.
Et je veux dire, parce que tu es aussi d'avoir une voix qui porte dans l'espace public, je pense que c'est un privilège qu'on a tous, que ce soit derrière un micro, ou même toi, tu es rendu que tu t'es bâti une certaine notoriété, fait que tu es capable de l'avoir en dehors du micro qu'on te donne aussi. De
sans
profiter,
te prendre pour acquis.
Sans te prendre pour acquis, mais d'en profiter comme ça pour pouvoir transmettre tes expériences, c'est ça que tu veux faire pour la prochaine année.
C'est ça que je veux faire. Fait que j'ai beaucoup réfléchi, puis ce sera ça. Ce sera des sujets un peu hors champ. Ça va être le retour des deux bottes sur le sol dans votre gang, dans votre vie ou encore dans des aventures. Puis ça va être ce qui va me porter pour la prochaine année. J'ai vraiment le goût de ça. Fait que c'est ça qui m'attend. Excuse-moi, je me dis, t'en vas où? T'en retournes-tu au 93? Tu fais ici? Puis je l'aborde. Puis ça me faisait rire parce que, aussi grand soit-il, mon projet, c'est juste ça.
Mais c'est juste ça, ça reste beau. L'important, c'est que c'est toi, que ça te porte toi, puis que c'était ça que toi, à ce moment-là, tu voulais faire.
Puis moi, je le sais, là, ce qui s'en vient pour vous dans la programmation à Boulevard, c'est juste du beau monde, plein d'opinions, de pluralité de visions. Ça va être le fun de votre automne. Matt, t'es exceptionnel, ça fait un an que tu travailles fort. Pour moi, je te l'ai dit, souvent hors d'onde, tu es ce que je définis comme étant la relève. T'es un gars qui travaille fort, qui s'arrête pas à ton âge, qui s'arrête pas au peu de bagages que t'as dans les médias. On est chanceux d'avoir des gens comme ça qui ont un micro. Et je vous souhaite d'être juste tout le temps le plus ouvert possible à l'auditoire. Puis l'auditoire, je vous souhaite qu'il vous alimente le plus souvent possible parce qu'on oublie des fois dans notre vie que le texto, ça fait une différence quand vous l'envoyez au 88-971-1021. L'histoire que vous vivez, que vous dites « Ouais, c'est pas intéressant, non, non. » Ayez pas ce jugement-là envers vous puis votre histoire, envoyez-la à ton adresse courriel.
citoyen@blvd.fm. Merci beaucoup, Pascal, mais c'est pas à moi de recevoir des fleurs aujourd'hui. C'est quand même ta dernière journée. Non, mais pour vrai, merci, Pascal. Je te souhaite la meilleure des chances dans tous ces projets-là puis de pouvoir t'accomplir là-dedans. T'as été d'une grande aide pendant un an, super ouverte. Tu m'as accueilli à bras ouverts, beaucoup aidé dans mon cheminement aussi au cours
J'aurais
de la dernière année.
J'aurais voulu en faire toujours plus.
Hey, t'en as déjà fait en masse, puis selon moi, je suis pas tout seul là, par texto, ça arrête pas de rentrer. Beaucoup d'auditeurs que t'as réussi à faire évoluer, que t'as réussi à faire réfléchir comme que tu le souhaitais, puis que selon moi, qui vont s'ennuyer de toi aussi.
Ben c'est très, très gentil. Fait que là, au moins, on a mis carte sur table. Vous êtes au courant. J'avais beaucoup de questions. Puis ça me fait plaisir. Je trouve que c'est juste, finalement, respectueux de vous répondre ce matin. Ce que je vous souhaite pour la prochaine année, c'est une année exceptionnelle. Redéfinissez vos priorités, puis mettez de l'énergie là-dedans. Après, ça ne peut juste que bien aller. Et regardez-vous dans le miroir, aussi confrontant soit-il, pour être la meilleure version de vous-même. Puis n'oubliez jamais que les gens qui vous aiment le plus, c'est les gens les plus confrontants dans votre vie. C'est ceux que vous aimez le moins entendre sur vos défauts. Mais justement, c'est de l'amour pur, puis c'est ça qui vous fait évoluer. Bon, en cette journée nuageuse, on va faire notre émission ensemble, Matt. On va finir cette semaine-là, ce blitz-là estival. Et bon, c'est sous le soleil qu'on va le faire à 31 degrés. C'est une belle journée d'été avec un peu moins de soleil qu'hier. Samedi, demain, c'est 28 degrés avec un risque d'orage et des averses dimanche aussi. Par contre, ça peut toujours changer. Des fois, ça change en 12 heures. On ne restera pas là-dessus, puis on va aller profiter de tout ce qui nous anime et nous appelle dans la ville de Québec, que ce soit Cigale au cinéma avec les sorties de films, que ce soit juste de rester chez vous puis de profiter de votre cours. Mais en actualité, quelles sont les trois principales manchettes?
On a eu des chiffres de taux de chômage aujourd'hui, de taux de chômage qui recule encore une fois un petit peu au Canada, 6,4% avec une création de 75 000 emplois. Donc, on continue de créer des emplois dans l'économie canadienne, surtout grâce aux jeunes de 15 à 24 ans, 51 000 emplois créés dans le groupe d'âge en question. On en comprend donc que c'est beaucoup d'emplois estivaux qui vont probablement être perdus en septembre. Du côté du Québec, taux de chômage de 5,6%, c'est une très bonne nouvelle. Une drôle de situation du côté de Lévis, un homme de 50 ans qui a été arrêté par la police pour avoir crevé les pneus d'une quinzaine de voitures de policiers et d'agents de la DPJ. C'est Dominique Gauthier qui a dû comparaître aujourd'hui. Il fait face à des accusations de méfaits de plus de 5 000 $ d'intimidation d'une personne liée au système de justice et de harcèlement criminel. L'homme devrait revenir en cours la semaine prochaine pour faire face à d'autres accusations également. Et je termine avec un problème qui s'en vient de plus en plus criant au sein de notre société. Des membres de l'hôpital de Montréal qui lancent un cri d'alarme par rapport aux trottinettes électriques. Puis écoutez ça. Depuis le début du mois d'août, on est le 7 août, donc en une semaine seulement, 80 enfants et adolescents ont été traités seulement à cet hôpital-là pour des blessures reliées à des trottinettes électriques. seulement à cet hôpital-là. Donc, imaginez-vous au Québec au complet.
Il y a plein de médecins qui disent que c'est leur hantise maintenant, la trottinette électrique, là. Que c'est un fléau, c'est un calvaire, là.
Sur ce nombre, 56 % des 80 enfants avaient moins de 14 ans. Donc, plus jeune que l'âge minimum légal pour conduire une trottinette électrique qui est de 14 ans. L'hôpital qui demande au gouvernement justement de mettre un cadre réglementaire plus clair et de faire davantage de sensibilisation.
Merci Mathias pour ton sérieux dans les nouvelles. Hey, tout au long de l'émission, tu seras là. Étienne Alexandre Beauregard s'en vient aussi. On a une grosse journée de politique provinciale hier. On va faire le tour avec lui. On met la table. Et là, dans les dernières heures, on était à Lac-Beauport. Christine Fréchette, qui est première ministre, mais surtout chef de la coalition Avenir Québec, présentait de nouveaux candidats. Parmi ces candidats-là, il y a des visages qu'on connaît, des entrepreneurs. C'est pour ça qu'on était à Lac-Beauport. Je disais, mais c'en est un. Christian Lachance, vous allez recevoir cet homme-là dans l'émission du midi tantôt avec Jeff Fortin.
Oui, entrepreneur de Beauport et présentement président de la Chambre de commerce de la Jacques-Cartier à midi et demi.
Et il y aura plein de nouveaux visages. Moi, s'il y a une entrevue que vous devez écouter, c'est celle de ce matin qu'on a fait avec un candidat libéral. Tu sais, des fois, on vote pour la personne, pas pour le parti. Puis des fois, c'est un peu à contre-cœur. Mais ce gars-là est inspirant.
OK.
Il a géré beaucoup, beaucoup de dossiers en termes d'itinérance, puis il s'est essayé en politique parce qu'il dit « j'ai goût que ça avance un petit peu plus ». Là, ce matin, je faisais un clin d'œil en disant « ouais, t'es-tu sûr que ça va avancer plus en politique? » Semble-t-il que dans les dernières années, ça avançait plus les deux pieds sur le terrain qu'en politique, là. Mais pour lui, c'est un essai, puis il avait l'air de se présenter pour des bonnes raisons. C'est à Vaudreuil, là, on ne pourra pas voter pour lui, mais j'ai aimé ce profil-là.
Bien, j'ai entendu la réponse à ta question ce matin, Pascal, puis juste sa réponse de dire, regarde, honnêtement, je sais pas, mais je veux l'essayer. D'être capable d'avoir une honnêteté puis de sortir de la cassette, je vais être...
C'est vrai qu'il a répondu ça. Merci, Mathias. C'est vraiment complet là, par rapport au profil que je veux exposer.
Oui, c'est ça,
là.
Exact. T'sais, avoir une honnêteté d'esprit puis être capable de s'exprimer par soi-même. On a reçu beaucoup de candidats à Boulevard. Puis après beaucoup d'entrevues, je dis la même chose. Là, il va falloir nous présenter des candidats qui font pas juste réciter à cassette. Ouais. Si on veut la cassette, là, on va aller sur les sites Internet des partis électoraux. Quand on veut rencontrer candidat, ouais, on veut quelqu'un qui représente sa région puis qui a une personnalité.
Opinion impopulaire. Dominique Dumas, je suis de la Chaudière.
Oui.
Parti conservateur du Québec. Opinion impopulaire, mais vous suivez-moi, vous allez comprendre où je m'en vais. Sa sortie sur l'avortement, je suis quasiment contente qu'il la fasse.
Non, mais...
Parce que je savais devant qui j'étais. Puis je vais pouvoir voter en conséquence si je suis dans la Chaudière.
100%.
Puis j'ai aimé qu'Éric Duhaime sorte et dise « Voici la ligne de parti, si tu ne rentres pas dedans, va-t'en. » Mais on a su ce qu'il pensait.
Effectivement, puis je l'ai dit en ondes cette semaine dans l'émission du midi. Moi, pour vrai, la réponse que Dominique Dumas a donnée en scrum, j'avais aucun problème avec ça. On n'a pas cherché à cacher une opinion. On a mis ça au clair qu'on n'était pas en politique pour ça puis qu'on n'allait pas ramener ça dans les débats. À partir de ce moment-là, j'ai un problème avec le fait qu'il avait supprimé tous ses tweets. Puis...
Moi, Mathias, je te le dis tout de suite, je ne voterai pas pour cet individu-là. Je le trouve courageux de se présenter en politique. Mais ça, pour moi, là, juste de parler de ça, fait en sorte que c'est pas le mien.
Puis avec
raison.
Il y a
beaucoup de tweets, ouais, c'est pas le mien. Mais, merci de m'avoir dit la vérité sur ce que tu penses, par exemple.
Puis je suis d'accord avec toi. Le seul problème, c'est que là, il a quand même caché cette vérité-là.
Il y a une couple de vérités qu'on a voulu effacer.
C'est ça, exact. Là, j'ai un peu plus de problématiques.
On en a reparlé.
Mais son scrum de cette semaine, moi, j'ai eu aucun problème avec les réponses qu'il a données.
On veut de la transparence, on veut de l'honnêteté, puis on veut des explications, chose qui manque beaucoup juste ici, à Québec, sous Bruno Marchand, c'est d'aller devant le micro et dire « voici ce qui ne fait pas l'unanimité, mais voici pourquoi on le fait ». On veut pas vous le mettre dans la gorge, mais regardez avec quoi on jongle, avec quoi on doit jouer, avec quoi on doit faire, et ça nous amène à prendre ces décisions-là. Ça se peut que vous ne soyez pas en accord, mais pour nous, c'est le chemin à prendre. Comme ça, dans la discussion, on réussit à beaucoup plus se retrouver. Hey Matt, on va faire une pause, ça fait plus de sens. 25 minutes à jaser ensemble en ce début d'émission. Tant mieux, là, dans...
On voulait souligner ton départ en grand, Pascal.
C'est ça. Salut Matt. On se retrouve tout de suite après la pause avec Étienne-Alexandre Beauregard, qui sera en studio. Le point... Vous êtes à Boulevard 102 en ce vendredi 10h30. Très heureuse d'accueillir celui à qui on parle souvent parce qu'on est bien content de l'avoir ici comme collaborateur à Boulevard 102.1. C'est Étienne-Alexandre Beauregard qui sera avec nous. Juste avant Mathias, par exemple, dans la circulation, est-ce qu'on a des enjeux?
Ouais, faire un petit tour rapide, là, c'est quand même les ralentissements habituels. 20 direction ouest entre Taniata et Président Kennedy, c'est au rouge actuellement. En direction est, c'est entre Taniata, ça remonte presque jusqu'à Avenue des Églises pour le moment. Sur la rive nord maintenant, Henri IV, direction sud à hauteur de Charest, un peu d'attente. Charest, direction est pour prendre justement Henri IV, c'est au rouge aussi. Et je termine avec leur ancienne direction sud pour prendre Capitale. Un bon ralentissement dans le secteur, quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021, ça se passe par texto.
Ouais, quoi que ce soit d'autre, pas un accident comme hier, par exemple. Le camion qui a passé par dessus.
Ça, c'est fou raide. Hein?
Ben voyons donc, genre de pont viaduc, là, le camion, il a défoncé les renforts sur les côtés. Là. Moi, je pense que je voyais juste ça dans Grand Theft Auto, cette possibilité-là, ou encore dans Fast and Furious. On m'a toujours dit que ce qui était fait et monté sur les côtés protégeait d'une chute. Ça va être correct maintenant?
Pour vous donner une image, la personne était sur Capitale, puis elle a sorti par un viaduc sur Seigneurial pour terminer dans un mur. Le pick-up était complètement détruit. Puis ce qu'on nous dit dans l'article, c'est que la personne, après l'accident, est tout simplement sortie de son véhicule.
Ça, j'appelle ça l'adrénaline.
Oui, mais de ce qu'on comprend, il n'y avait pas de. Tu sais, on ne craint pas pour sa vie. Il n'y avait pas de blessure si grave que ça non plus.
Puis j'avoue qu'avec l'impact, là, la voiture est complètement détruite.
Ah non, quoi, pour de vrai, c'est un miracle que cette personne-là s'en soit sortie autant indemne, j'ai envie de dire.
Oui, je suis absolument d'accord. Mais faites attention parce que tout ce qu'on imagine là, et qu'on nous dit non, ça ne peut pas arriver, finalement, ça peut arriver. De ce que je comprends, là, c'est comme quand tu descends vers l'est, face à l'île d'Orléans, quand tu es sur la capitale. Puis tu tournes, là, maintenant, ils ont rétréci à une voie. Tu tournes vers la gauche pour te diriger vers l'île d'Orléans, l'est, la côte de Beaupré. Moi, à chaque fois, je me dis, il faudrait pas qu'une voiture passe tout droit, que les freins lâchent, là. Tu te ramasses dans le fleuve. Ben non, pas de problème. On a des trucs de sécurité. Ça me convainc un peu moins quand je vois des accidents comme ça hier sur nos autoroutes. Bon, Étienne-Alexandre Beauregard, salut.
Allô?
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je sais que tu as la broue dans le toupette. Je sais que tu travailles sur plusieurs dossiers. La rentrée électorale s'en vient. Mais on est toujours content d'avoir ton passage en tant que chroniqueur politique et chercheur pour l'Institut Cardius en studio. Étienne-Alexandre, avant d'aller dans les sujets d'hier de la politique, hier, je demandais à Jeff Fortin des petites affaires à ton sujet, puis j'avais pas de réponse.
Oh mon Dieu!
T'as quel âge, toi, déjà?
25 ans.
Et tu as été rédacteur des discours de François Legault.
Oui, absolument.
À 25 ans, tu as fait ça. Ça veut dire que tu faisais ça à 21,
Ah oui, j'ai commencé 22. À 21 en 2022. Donc.
Peux-tu nous expliquer dans quelle position un jeune homme de 21-22 ans se ramasse à écrire des discours pour François Legault?
Mon Dieu, là, tu me mets sur le spot, mais... dans le fond, moi, d'ailleurs, j'avais commencé, en fait, pour la première fois parce que je militais, en fait, dans la jeunesse de la Coalition Avenir Québec.
Tu étais déjà engagé
oui,
en politique.
Puis moi, en fait, c'est en 2019, quand j'avais 18, que j'ai commencé comme stagiaire au bureau. Puis dans le fond, je répondais au courrier des citoyens. Là, okay. C'est vraiment la job d'entrée pour laquelle il y avait besoin d'un stagiaire l'été.
Genre, j'ai un problème, j'écris à mon bureau de comté.
Ouais, ou j'écris directement au premier ministre. Okay. Puis bon, exact. Fait que là, toutes sortes de demandes, tu devines. J'ai fait ça pendant un an et demi, puis là, bon, pendant la pandémie, pendant le COVID, quand le monde avait des questions sur toutes sortes de choses, quand même, nous, on n'avait pas de réponse. C'était assez sportif. Puis là, après, bon, je suis parti pour écrire mon premier livre, en fait, qui est sorti justement au printemps 2022. Puis là, après, c'est là que j'ai eu un autre appel en disant, bon, là, on cherche un rédacteur pour la campagne. Et après, est-ce que ça te tenterait?
Est-ce que tu étais seul à faire cet
emploi-là? Non, on était deux. Parce qu'il y avait, en fait, mon patron, Stéphane Gobeil, qui était, lui, le directeur de la planification stratégique et... rédacteur. C'était comme tout ce qui était stratégie politique, rédaction, les discours plus importants, etc. Il s'en occupait. Moi, je faisais pas mal toutes les autres. Puis j'aidais aussi avec tout ce qui était un peu plus, justement, stratégie, notre approche par rapport aux autres partis, etc. Oui.
Ce qui est normal en politique, là.
Absolument, parce qu'on est là pour ça. Il y a la gouvernance, mais aussi la joute. Fait qu'on est entre les deux quand on est au gouvernement.
Fait que là, t'écoutais tout ce qui se faisait, tu réfléchissais à qu'est-ce que vous pourriez répondre, qu'est-ce qui collait avec François Legault, qu'est-ce qui collait avec le parti. Ça doit être quand même des années assez importantes dans ta vie à cet âge-là. Est-ce que le fait de rédiger des discours politiques a changé ta vision des communications politiques, maintenant que tu en es sorti?
Bien, je te dirais que c'est deux choses par rapport à ce que je fais le reste du temps, là, que ce soit écrire des livres un peu plus philo ou même des rapports plus politiques publics pour Cardus. Tu sais, c'est vraiment pas le même registre, par exemple. Parce qu'évidemment, tu écris un rapport, là, tu veux beaucoup de chiffres, tu veux des graphiques, tu veux ça, tu fais de la philo politique, tu cites des auteurs, tu sais, Rousseau, Locke, etc., tu vas loin. Tandis que quand tu fais une intervention orale, c'est beaucoup plus... C'est simple. Il faut s'arranger pour que le plus de gens le comprennent, que ce soit avec le moins de fioritures possible, ouais, le moins de détails inutiles. Mais en fait, c'est pas très différent de ce qu'on fait en ce moment. T'sais, c'est un travail plus de vulgarisation qui est pas le même. Après, moi, j'ai toujours pensé que c'était un atout d'être capable de faire tout ça. Parce que si tu comprends le contenu de fond puis que tu as travaillé dessus, c'est encore plus facile de le vulgariser après.
Puis ça, c'est vous qui mettiez en place les éléments que vous vouliez apporter dans un discours ou c'est le premier ministre et les équipes qui disaient il faut aborder tel sujet maintenant. Peux-tu me pondre quelque chose de vulgarisé et d'intéressant?
Oui, c'est sûr, c'est pas moi qui inventais les décisions gouvernementales.
C'était pas le premier ministre.
Non, pas du tout. Mais souvent, c'est parce qu'on a une équipe, puis je devine que ça n'a pas changé depuis que je suis parti, de conseillers qui, eux, ont la face dans le contenu tout le temps. C'est eux qui sont dans les rencontres avec les fonctionnaires, avec les sous-ministres, qui voient les briefings très détaillés avec les colonnes de chiffres, etc. Après, eux vont produire une note que le PM va pouvoir lire puis voir vraiment l'essentiel. Par exemple, moi, je pars de la note qui est un peu simplifiée pour en faire quelque chose de très vulgarisé qui va aussi intégrer les messages du parti. Parce qu'il faut expliquer comment une annonce X s'inscrit dans la stratégie globale du gouvernement, comment ça s'inscrit dans le pitch qu'on fait aux Québécois. Fait que c'est vraiment ça, en fait, comment est-ce qu'on traduit le côté un peu plus machine, froid, politique, public en politique, rhétorique, etc. Fait que c'était comme un peu un entre-deux entre le contenu et la communication. J'ai beaucoup aimé ça.
Si jamais je te prends, mais je ne veux pas te mettre dans le coin du mur ici, et que je te pose cette question-là. On a une campagne politique provinciale qui n'est pas commencée, mais est commencée. On est capable de se dire ça. Beaucoup de cynisme dans la population quant aux prochaines élections, à qui on devrait faire confiance. Est-ce qu'on devrait encore faire confiance en les politiciens qui se présentent avec leur candidature? Quand on parle de rédaction, de communication, quand on parle de sélection de communication, quand on parle... Est-ce que les politiciens en 2026 et ou pour la prochaine campagne auraient tout à gagner dans l'authenticité, dans la transparence? Ça s'est-tu perdu à travers les années, selon toi?
C'est une bonne question parce que je pense qu'on vit dans une époque où c'est plus difficile d'être complètement transparent.
Pourquoi?
Je pense que les diffusions en continu des médias sociaux...
Ça va trop vite.
Bien, on en parle plus. Puis s'il y a une petite affaire, ça peut exploser. T'sais. Puis des fois, ça m'amuse de penser à une époque où tout le monde n'avait pas justement un compte Twitter où il parle de tout le temps.
Oui.
C'est sûr que toutes les recherches d'opposition, par exemple, là, on a eu l'exemple avec Dominique Dumas plus tôt cette semaine, qui d'ailleurs avait fait le due diligence en anglais de supprimer ses publications, ce que moi je trouve normal et intelligent. Là. D'ailleurs, à
moi,
la
je
CAQ,
trouve un peu contrôlé.
Bien, tu vois, à la CAQ, par exemple, tout le monde le faisait. Puis d'ailleurs, le PCQ s'est fait beaucoup de mal en le faisant pas en 2022. Fait que rendu là, moi, si j'avais à les conseiller, je leur dirais, bien, continue de faire ça parce que, écoute.
Est-ce qu'on devrait juste ne pas prendre un candidat qui a peut-être un peu trop communiqué des choses qu'il ne pense pas?
À ce moment-là, ça veut dire que les gens, par exemple, qui sont dans le monde des médias vont avoir beaucoup plus de difficultés à passer en politique. Parce que on s'entend, c'est deux métiers différents. Moi, pour avoir travaillé, entre guillemets, dans les deux...
Deux métiers complètement différents.
Ben oui, parce que, tu sais, mettons, moi, je suis ici dans le siège, c'est ma job de prendre position sur tout, parce qu'on parle de ça, on voit passer, etc. Oui. Mais si demain matin, Dieu m'en garde, je décidais de me présenter à l'élection... ben là, c'est sûr que les gens ils pourraient dire « Ah ouais, mais attends, t'as dit ça, c'est pas raccord avec ton parti, t'as dit telle affaire aussi. » Non, effectivement.
Mais sur la place publique, après, tu te défendras, tu diras « Voici comment je pensais, oui, à ce moment-là. Ouais. Oui, je pense encore ça pour telle raison. » Ça amènerait pas une hauteur dans les discours, dans les candidatures?
Peut-être que t'as raison. Puis à ce moment-là, je pense qu'il faudrait juste peut-être avoir la maturité dans la manière qu'on couvre la politique, de pas avoir cette attente déraisonnable que tout le monde soit d'accord à 100% avec leur parti.
Et ça, c'est un projet de société?
Ben absolument.
Ce que tu dis là... Oui. C'est quelque chose qu'on devrait tous atteindre, là, autant dans les citoyens que dans les commentateurs, dans les médias, qu'en politique.
Mais c'est clair. Parce
si on décide d'aller vers la transparence et l'authenticité.
Ouais, parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien de plus facile que de dire « Ah ouais, un tel, il se présente pour tel parti, mais on sait qu'il n'était pas d'accord avec telle chose, fait qu'on va juste parler de ça. » Mais tu sais, je suis sûr que tous nos auditeurs, ceux qui vont voter, qui votent pour un parti, n'ont pas un degré d'accord de 100% avec le programme du parti pour lequel ils votent. Il n'y a personne pour qui c'est ça.
Pas besoin d'une coalition pour... pas être en accord sur absolument tous les points.
Tous les partis sont des coalitions, en fait. Hein. Tous les partis sont des gens qui s'entendent sur une ou deux, trois choses qui sont vraiment centrales pour eux, puis qui, après, font avec le reste.
Alors, en 2026, aux prochaines élections, est-ce que toi, de ta vision pour avoir été à l'interne et tout ça, ça manque de transparence. Est-ce qu'on devrait viser un peu plus dans la transparence? Est-ce qu'on aurait à gagner de ça?
Bah, tu sais, moi, je dis souvent, c'est pas moi qui fais les règles, je joue avec, là. Dans le sens qu'à un moment donné, on s'habitue. T'sais. C'est juste qu'il faut pas être trop cynique quand il y a des choses comme ça qui arrivent parce que c'est la game, tu sais. C'est, d'une certaine manière, il y a un jeu politique, entre guillemets. Là. C'est des enjeux qui sont très sérieux, c'est des enjeux qui nous concernent tous, ceux qui décident de notre vie. Mais il y a quand même des règles qui sont un peu codifiées de la manière dont on couvre ça, de la manière dont on en parle. Puis ça fait partie un peu du jeu, puis c'est dur de changer ça, tu sais.
C'est dur de changer ça.
Je pense que oui.
Mais au même titre qu'on devrait avoir plus de souplesse dans des ministères, par exemple, qui se coltèrent avec des syndicats, qui sont tout le temps dans l'incapacité d'aller plus loin parce que le paquebot est trop gros à tourner, parce qu'on va se buter à des syndicats, oui, mais à des gens réfractaires, tout ça. Il y a un moment où il faut mettre le doigt sur ce qui nous manque en politique puis passer à travers, même si c'est des années sombres ou difficiles ou dérangeantes, non?
Non, t'as raison. Mais c'est dur de changer la culture.
Parce que le cynisme, là, il est plus coûteux en ce moment. C'est des gens qui vont se désengager de la politique, qui n'iront plus voter, qui n'iront plus lire les plans des partis, qui n'iront plus lire les propositions, qui ne sauront plus c'est qui leur candidat élu dans leur circonscription, leur comté. Pas trop de choses sur le gouvernement en place. Et ça va peut-être mener, puis il ne faut pas se rendre là, à des histoires comme on entend aux États-Unis, des gens qui disent « Ouais, ben c'est mon président, je lui fais confiance », mais qui ne sont pas au courant des politiques. Le fameux adage, si tu t'occupes pas de la politique, elle va s'occuper de toi. J'ai l'impression qu'on s'y dirige tranquillement par cynisme, manque de conviction ou en fait des attentes déçues des politiciens, même si on peut pas répondre à toutes les attentes. Ça aussi, il faut l'avoir en tête en tant qu'électeur.
Ben oui. Puis tu sais, au final, les politiciens et les gens qui travaillent en politique, ça reste des êtres humains au même titre que nous trois autour de la table. Là.
Souvent, puis on les connaît, on a des discussions avec eux, puis notre opinion change, s'améliore ou pas dans d'autres cas.
Non, puis dans tous les partis, il y a des gens qui sont raisonnables, qui, je pense, font de la politique pour les bonnes raisons, parce qu'on s'entend, en 2026, il y a beaucoup de carrières plus rémunératrices que la politique, beaucoup de milieux où tu vas moins te faire exposer publiquement. Exact, parce que c'est ça qui fait que beaucoup de gens quittent la politique. Puis encore une fois, ça fait partie de la game. Fait que je dis pas qu'on devrait pas pouvoir les critiquer publiquement. Là. Je veux dire, à un moment donné, si tu fais de la politique et que tu t'exposes, c'est que tu as un petit quelque chose de mazo. Là, de manière...
non, mais c'est drôle qu'ils disent ça, parce que moi, je dis tout le temps, il faut être sado-mazo pour tourner à des candidats qui reviennent au micro après avoir quitter la vie politique pendant un bout. Ouais. Êtes-vous sadomasochiste? Je leur ai dit souvent, là. C'est drôle que tu amènes ce point-là. On va passer aux enjeux.
Oui, bien sûr.
Puis au sujet de conversation, parce qu'hier, ça a été une grosse journée en politique provinciale. Les tables commencent là, à se monter. Là, on voit la vaisselerie, les nappes, le choix de couleurs, le scie, commencer à se monter pour chacun des partis politiques. C'est une image que je vous fais. Mais le troisième lien, c'est un enjeu important dans la région et le Parti québécois. C'est pas repenché, parce qu'il y en avait déjà été question avec Pascal Paradis, qui était venu ici, qui a été élu dans Jean Talon et qui nous en a jasé, comme quoi le Parti québécois, oui, veut un troisième lien, mais on ne le veut que dans le transport en commun.
Ouais.
Oh, t'as pas l'air d'accord avec cette position-là.
Ben non, mais parce que moi, je pense que c'est... Malheureusement pour eux, leur position, c'est la meilleure manière de perdre sur les deux tableaux. Parce que... C'est bon, vous le savez, je vous apprends rien. À Québec, c'est très polarisé comme débat. Puis la plupart des gens qui sont opposés, en tout cas à qui je parle, c'est parce que construire plus de routes, construire, etc., soit ça coûte trop cher, soit on veut pas de ça parce qu'on pense pas que c'est nécessaire, etc. Puis les gens qui le veulent, ben, ils veulent pas, c'est parce qu'ils prennent l'auto pour aller de Québec à Lévis. Fait que si t'arrives avec ça, c'est comme si les deux raisons pour lesquelles les gens aiment pas, tu les gardes. Mais ce qui pourrait être positif d'un côté ou de l'autre, tu les ignores un peu. Fait que moi, je pense que ça va être vraiment dur.
Pour toi, ça répond à personne.
Ben, honnêtement, c'est ça qui est difficile. Puis, tu sais, on peut parler de polarisation, etc., mais je pense que c'est un vrai enjeu quand même, dans le sens que, effectivement, pour moi, là, ça n'a jamais été une question de technicalité à la question du troisième lien. C'est une question, c'est quoi le mode de développement qu'on veut pour la région? Est-ce qu'on veut favoriser de construire plus de maisons, notamment unifamiliales, sur la rive sud, de faire en sorte que ça soit possible de passer par l'est pour s'en venir ici, favoriser ce type de développement-là? Ou est-ce qu'on veut densifier autour du tramway, pour ne pas le nommer. Puis à ce moment-là, ben, ça sert un peu à rien de te faire de l'expansion, tu sais. Fait que j'ai l'impression qu'ils sont un peu, ils tirent dans le but, dans leur propre but des deux manières, tu sais. C'est vraiment une position qui, je sais pas si va avoir beaucoup d'adhérents qui vont dire, hey, la meilleure position, c'est vraiment un troisième lien, mais juste le transport en commun. T'sais.
Donc, au niveau de cet enjeu-là, au niveau de la souveraineté pour d'autres, ce serait pas mal les épines dans le pied du Parti québécois qu'on peut identifier jusqu'à maintenant pour la prochaine campagne électorale.
Ouais, puis en plus, tu sais, La région de Québec, vous le savez, c'est deux réalités. On vient d'en parler. Je pense que la question du transport l'explique bien. Mais moi, je voyais une publication qui m'a fait un peu rire de la candidate péquiste dans Taschereau, Mme Robin, qui arrive de vivre en ville, qui disait « c'est le temps de ramener les quartiers centraux au pouvoir ». Moi, j'ai vu ça, je crois que... Bon, ben.
On dirait les pics la perche, là.
Ben oui, mais si...
c'est ça qui me vient en
tête. Si t'es le candidat du PQ dans genre Charlebourg ou Beauport, tu vois ça, tu dis « j'espère que ça sera pas le message pendant l'élection, parce que sinon, ça va être long
». Ouais, j'avoue que là, peut-être qu'elle va se faire remettre un peu dans le cadre communicationnel.
Ben, c'est ça, parce qu'à un moment donné, veux pas, c'est très difficile de faire campagne à Québec sans choisir ton camp là-dessus. Oui. Même la CAQ a gagné beaucoup de sièges à Québec dans les dernières élections, mais ont jamais été vraiment proches d'avoir Taschereau ou Jean Lesage, puis même Jean Talon, c'est le premier qui a débarqué.
T'as raison.
Fait que c'est vraiment un équilibre qui est difficile à maintenir. Puis bon, ne serait-ce que par le poids du nombre, est-ce que tu veux les 11 comtés qui sont plus banlieues autour ou est-ce que tu veux les 3 comtés centraux? Méditer.
À méditer, ouais, ça nous rappelle certaines années aussi. Le slogan du Parti conservateur du Québec, c'est « Mon élection, mon choix ». Est-ce que tu trouves que c'est un... Est-ce que tu trouves que c'est un bon slogan dont je fais des farces? Mais le Parti conservateur du Québec, donc d'Éric Duhaime, a dévoilé son slogan électoral « Oser pour vrai ». Vite comme ça, t'entends ça, ta première réaction?
Honnêtement, moi, j'ai trouvé ça intelligent pour la raison suivante. Je pense que une des parties de la population à qui le PCQ veut parler, c'est les gens qui sont un peu plus centre-droit, qui avaient fondé un certain espoir dans la coalition de Québec en 2018-2022, puis qui disent « bon, OK, déficit, subvention aux entreprises, etc., je suis peut-être pas satisfait de ce qui s'est fait ». Fait qu'à ce moment-là, où je me tourne, t'sais? Puis rendu là, c'est un peu dire, j'imagine, en tout cas, moi, si j'étais M. Duhaime et que j'essayais de faire le pitch, je dirais, bon, là, vous avez voulu oser, mais ça n'a pas marché. Fait que là, tournez-vous vers une alternative.
Non, vous avez voulu la continuité, ça n'a pas marché.
Fait qu'oser pour vrai.
Là, vous êtes frileux, faites-le, pitchez-vous dans la piscine.
Parce que je pense que ça reconnaît quand même que si tu votes pour le Parti conservateur du Québec, tu te dis un peu... J'essaie quelque chose de différent. On s'entend, c'est pas un parti qui ambitionne ou qui a vraiment la possibilité de prendre le pouvoir. Fait qu'il faut quand même que tu aies une motivation idéologique, quelque chose, de dire « bon, je vais y aller avec cette option-là qui est un petit peu en dehors des partis établis ». Fait que je pense que d'avoir ce côté-là, puis tu sais, c'est un slogan qui mise un peu sur l'émotion aussi. Tu sais, je veux dire, quand tu veux du vrai, ça veut dire que tu veux du oomph là, dans la politique. Justement, tu veux pas juste un discours policier, etc. Puis bon, M. Duhaime, attends, M. Duhaime.
Éric Duhaime, est-ce qu'il a gagné des points cette semaine quand il a remis à sa place son candidat Dominique Dumas, qui se présente pour son parti dans Chute de la Chaudière, qui ramenait l'objet, la question de l'avortement, puis même juste le sujet sur la place publique, et dit « hey, nous, c'est pas une option, on va pas là ». On n'ira pas là. Est-ce que tu crois qu'il a gagné certains votes ou certains intérêts de personnes qui l'auraient étiqueté au Parti conservateur du Canada, par exemple?
Bien, l'affaire, c'est que, d'abord, autant le Parti conservateur du Canada que le Parti conservateur du Québec sont très clairs sur ces questions-là.
Mais il y a toujours eu, du côté du Parti conservateur du Canada, un genre de spectre. Là, il en parle-tu ou il en parle-tu
beaucoup
pas?
Beaucoup agité par le Parti libéral du Canada.
Oui.
Comme
oui,
toute la question avec M. Dumas, c'est pas Doom Dumas dans son annonce de candidature qui a dit « moi, je suis ici parce que j'ai envie de parler de la question de l'avortement ». C'est pas ça. Fait que c'est toujours un peu ramené par les autres à la manière d'un épouvantail, etc. Puis je pense il faut clarifier les choses là-dessus pour au moins qu'il se fasse pas prêter des intentions qui sont pas les siennes. Écoute, s'il décidait que c'était son cheval de bataille pour la campagne, bon, d'abord, il saurait pas lire un sondage, mais il pourrait faire ce choix-là. Mais c'est sûr que là, il y a un problème quand tu te fais étiqueter des choses qui sont pas ton programme, qui sont pas ce que tu proposes. Puis c'est sûr qu'il faut remettre les pendules à l'heure à ce moment-là, parce que tu veux pas cette espèce d'ambiguïté-là, alors que dans le programme du PCQ, c'est clair, puis c'est barré à double tour, ce n'est pas une question qu'ils veulent aborder. Fait qu'il faut le dire, il l'a dit, puis bon...
C'est du leadership, ça, de revenir en disant, garde, ça se peut que ça éclabousse un peu mon candidat, mais moi, je veux juste ramener le discours où je veux qu'il soit.
Ah, ben, mais je pense qu'il le faut. Puis, tu sais, de la même manière avec M. Marco Archambault qui se présentait, qui est un ancien péquiste, qui dit bon, ben, moi, je suis pas là pour faire la souveraineté. Tu sais, dans le sens que c'est des choses qu'il faut mettre au clair, parce qu'effectivement, tu dis bon, puis il peut avoir une position personnelle, c'est très bien qu'il soit souverainiste, bon, vraisemblablement. Mais après, s'il vient pas en politique pour ça, s'il décide que les questions, par exemple, fiscales du modèle québécois, etc., c'est plus important pour lui, ben, il est tout à fait légitime d'aller au Parti conservateur du Québec. Puis, à ce moment-là, moi, je pense que tant que les choses sont claires, qu'on dit bon, voici ce sur quoi ce parti s'entend. Puis bon, c'est sûr, il y a des gens qui ont des positions personnelles qui sont hautes, mais s'ils ne défendent pas dans le cadre de leur fonction de député, ben c'est la vie.
À partir du moment où on a mis ça au cœur, puis ça fait quand même plusieurs années qu'on le fait du côté d'Éric Duhaime, qui a de parti pro-choix, puis qu'il n'y a pas place à la discussion.
Éric Duhaime, c'est pas un conservateur social. Non, c'est manière, ça. Comme il le rappelle souvent, lui, il est gay lui-même, il n'est pas contre le mariage gay ou quoi que ce soit. C'est pas ses enjeux. Là.
Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ce soit quand même ramené par les autres partis au cours de la campagne électorale, cet enjeu-là, puis qu'on essaie de mettre une étiquette sur le Parti conservateur?
Ben, ça se peut très bien, ça se peut très bien. D'autant plus que M. Dumas a l'infortune de se présenter contre Martine Biron, qui est comme la ministre qui en a fait un cheval de bataille depuis 4 ans. Fait que c'est sûr que quand elle a dû voir ça, pour moi, elle, c'était comme un steak 3A là, qui arrivait devant, puis elle s'est dit « j'y vais », tu sais. Mais ils vont certainement essayer, tu sais. J'étais pour dire comme le PQ avec le référendum, mais non pas comme le PQ avec le référendum, parce que le PQ propose un référendum à la différence du PCQ qui va pas dans cette direction-là. T'sais, d'une certaine manière, on pourrait dire que c'est de bonne guerre, dans le sens comme on va dire que le Parti libéral, c'est un parti antinationaliste, qu'on va dire que Québec solidaire, c'est des woke déconnectés. Je veux dire, c'est comme des attaques régulières qu'on sort.
C'est un discours ambiant.
Voilà. Mais ouais. Après, comme citoyen, il faut quand même avoir le discernement de voir puis de dire, bon, regardez, est-ce que c'est vrai dans ce cas-ci? Est-ce que... les candidats ont encore le droit de préciser eux-mêmes quelles sont leurs orientations et quel est leur programme. J'espère qu'on les écoute quand même pour voir.
Étienne-Alexandre Beauregard, le temps avance, je sais qu'il faut que tu quittes bientôt. Tu es un homme occupé. On a-tu encore 2-3 minutes avec toi? OK, bon. Parce que je veux, pendant qu'on parle d'Éric Duhaime, faire rapidement état de sa promesse. Une grosse baisse de taxes d'impôts. Il veut la plus grosse de l'histoire. Là, on parle de baisse de taxes et d'impôts historiques. Là. C'est ça qui est sorti de la bouche du chef conservateur Éric Duhaime. On veut marquer l'imaginaire, on dirait, avec ça. C'est un peu ce que certains analysent. Par contre, est-ce qu'on peut faire baisser les taxes et les impôts, mais donner plus ensuite aux contribuables à ce point-là? Est-ce que c'est pas un double discours?
Écoutez, il faudrait voir avec lui, mais moi, ce que j'ai compris de la proposition qui était mise de l'avant, c'est de dire on va prendre l'argent des subventions aux entreprises. Bon, qui a quand même cru de manière substantielle sous le gouvernement de la CAQ. On sait que M. Legault, c'était un de ses chevaux de bataille, de dire pour améliorer l'économie du Québec, pour développer de la richesse, il faut que le gouvernement se mette là-dedans, notamment avec des subventions du ministère de l'Économie, avec Investissement Québec, tout ça. Les budgets ont beaucoup augmenté par rapport à ce que c'était avant. Puis le pari que M. Duhaime fait, dans sa plateforme, c'est de dire on va prendre cet argent-là, qui se compte en milliards, et on va... le remettre dans les poches autant des entreprises que des citoyens. Sur le plan des entreprises, ça veut dire qu'on arrête de choisir des gagnants, guillemets. C'est pas le gouvernement du Québec qui va dire, par exemple, la filière batterie ou la filière défense, etc. Nous, on veut mettre nos billes là-dedans. On va juste faire en sorte que tout le monde ait moins d'impôts sur les entreprises et on verra qu'est-ce qui va marcher. Les gens seront libres d'investir, d'entreprendre dans ce qu'ils veulent. Puis même chose pour les contribuables, on va en redonner un petit peu plus. Fait que c'est un choix qui se défend. Moi, je pense que politiquement, c'est sage parce que tu veux pas... te faire étiqueter, c'est la chose la plus facile. Quand tu dis que tu vas baisser les impôts, les gens vont dire « Ah, ben quel service tu vas faire sauter? » Mais s'il dit « Moi, je prends juste 1 $ qui est mis en subvention aux entreprises, puis ça devient 1 $ qui revient dans vos poches, ben alors, on touche pas à ça. » Fait que je pense qu'il évite un petit peu une critique en faisant ça.
Ah, c'est intéressant. Il connaît bien la politique, Éric Duhaime. Ah, il l'a aussi commenté pendant de nombreuses années. On termine avec les 3 candidats dans la capitale nationale qui sont annoncés. Entre autres, la CAQ est du côté de Lac-Beauport depuis quelques minutes. Là, on en a un qui s'appelle Christian Lachance, un entrepreneur. Tout le monde essaie de faire en sorte que la capitale nationale ait des candidats de qualité là, dans chacun des partis.
Absolument. Je pense que c'est pas chauvin de dire que la région de Québec est toujours au de la joute politique au Québec, là, parce qu'on sait que c'est des électeurs qui sont extrêmement politisés, plus que la norme. Beaucoup de mouvements dans l'opinion qui commencent dans la région de Québec. Je pense que, d'ailleurs, beaucoup de partiels, hein, qu'on se souvient de Louis Hébert avec Geneviève Guilbeault qui avait lancé la vague caquiste, Jean Talon avec Pascal Paradis qui a comme un peu lancé la montée du PQ. Je pense que tout le monde sait que Québec, c'est une région qui est très, très, très importante quand on fait de la politique au Québec. Maintenant, sur les candidatures de la CAQ, moi, quelque chose que je remarque avec Mme Fréchette et ses candidatures, beaucoup des gens qui sont issus du milieu des chambres de commerce. On a vu...
L'économie, ça pogne. On a besoin de candidatures avec un CV économique. Là. C'est là où le bas blesse là, en ce moment en politique.
Absolument. Mais c'est intéressant des fois de faire un peu comme le portrait robot du candidat de chaque parti.
J'aime ça.
Je veux dire, mettons...
L'as-tu fait, toi? Tu l'as déjà réfléchi?
Si on essaye, là, tu regardes.
Je suis toute là, je t'écoute.
Tu sais, ton candidat du PCQ, ça va être... Des fois, un ancien maire, tu sais, en région, etc. Parfois, un communicateur, ça, il y en a quelques-uns. Puis souvent, qui est marqué idéologiquement à droite. C'est un parti qui est idéologique, qui l'assume, etc. Québec solidaire, aussi, des profils qui sont militants, des profils qui vont être des fois issus du milieu communautaire, du milieu syndical. Encore une fois, c'est pas très surprenant de ce qui va venir. Mais là, Parti libéral, puis la CAQ en ce moment, c'est comme des fois, t'as l'impression que ça s'interchange un petit peu. Oui, oui, oui. Ben, beaucoup aux chambres de commerce aussi. Parti libéral, il faut le dire, bon, d'aller chercher Michel Leblanc de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, c'était un bon coup. D'aller chercher M. Cossette, recteur, c'était très bon. On parlait de M. qui vient de la mission Old Brewery aussi.
Et on y a parlé ce matin.
Ils sont capables d'attirer des gens qui viennent de la société civile, etc. Parti québécois, aussi, tu vas avoir des profils militants. Mais ce qui est intéressant avec le PQ, cela dit, c'est que tu vois vraiment des gens qui arrivent d'un peu partout. Tu sais, bon, des journalistes. Encore ce matin, je voyais, avant d'entrer en onde, Jean-François Cloutier du Journal de Montréal qui a annoncé qu'il rejoignait le Parti québécois. Bon, M. Boissonneau, on sait qu'il vient de là aussi.
À Radio-Canada jusqu'à tout récemment à la radio.
Oui, exact. Là, tu vois, on a des gens, bon, ils sont allés chercher une spécialiste en intelligence artificielle avec Mme Nguyen, ils sont allés chercher des gens de toutes sortes de milieux, des gens qui viennent du communautaire, etc. Fait que je pense que être premier dans les sondages, ça aide pour ces choses-là, mais ils sont capables de ratisser très, très large, puis encore des gens qui ont en commun d'être souverainistes. Fait que, bref, on voit qu'il y a des profils différents, puis la CAQ, clairement, se ressent un peu sur un côté, tu sais, très Chambre de commerce. Chez la présidente de la Chambre de commerce de Lévis, je
oui,
crois, c'est présente dans Charlebourg, oui. Exactement.
C'est-tu ça, son nom? Je me trompe avec...
Marie-Josée Morancy,
voilà. Oui, c'est ça.
Donc, c'est ça, on voit, il y a des profils qui commencent à se faire, puis bon, la CAQ est dans la continuité de ce qu'elle va chercher pour cette élection-ci. Là.
Merci beaucoup, Étienne-Alexandre Beauregard, chroniqueur politique et chercheur pour l'Institut Cardus. C'est un bonheur de t'avoir accueilli en studio, puis d'avoir collaboré avec toi dans la dernière année.
Ben oui, absolument, absolument. Meilleure des chances pour la suite, Pascal.
Et succès pour toi. Même si tu retournes à écrire des communiqués là, pour des premiers ministres, là, on
c'est pas dans les plans.
Non?
C'est pas dans les plans.
Ça, c'est fait. Check.
Oui, exact.
Dit-il à 25 ans. Quel homme. Manquez pas ça. Mon
Dieu. Hey, tu m'as bien pitché des fleurs pour la dernière fois. J'apprécie.
Vous allez pouvoir le suivre tout au long de la campagne électorale. Il sera collaborateur encore et toujours à Boulevard 101 parce que, ben, nous, on t'a recruté et on est bien contents de cette candidature-là qui fonctionne très bien. Merci, Étienne-Alexandre.
Salut. Le point de
match. Il y a une petite effervescence là, en studio. Il y a un petit quelque chose qui se passe. Puis c'est pour le bonheur de ma personne. Je m'appelle Pascal CV. C'est ma toute dernière ici à Boulevard 102.1. Et je suis très chanceuse de la passer avec Yannick Marceau. Oh non, c'est vrai. C'est Mathias Turcotte.
T'as pas cette chance-là aujourd'hui,
j'ai
Pascal.
J'ai pas cette chance-là.
Tu vas pas te faire écœurer pendant 2 heures. Si tu veux, je peux faire comme Yannick.
On dirait que ça, c'est le récapitulatif de ma carrière. Travailler avec des gens qui travaillent ma patience, mon esprit de débat, ma répartie. Puis il y en a un qui va peut-être pouvoir corroborer à tout ça. C'est Rick Loutier qui est au bout du fil, qui attend qu'on aille le rejoindre. Mais d'abord, Mathias, très contente de finir ce Blitz Radio-là. Je répète avec toi, tu vas être dans On en jase aussi avec Jeff Fortin dès midi. Mais pour se rendre à midi, certains doivent prendre les réseaux routiers et c'est congestionné.
Oui, bien je commence avec le ralentissement habituel. 20 direction ouest, c'est difficile actuellement entre Taniata et président Kennedy. Aussi, vous signalez que Guillaume Couture, en ce moment, il y a des travaux dans le secteur de Chemin du fleuve en direction ouest. Donc, c'est un bon ralentissement aussi. Vous pouvez pas vous en sortir. Là. Si vous faites de ouest en est à Lévis, c'est bloqué, peu importe le chemin que vous prenez. Il y a quelque chose qui se crée. Puis il y a clairement, dans le secteur, que ce soit un accident ou une panne, j'ai pas des informations. Mais un peu après, président Kennedy, 20 direction ouest, est cette fois-ci, il y a un ralentissement qui se crée dans le secteur. Si vous avez des informations, n'hésitez pas à me les communiquer par texto. Je vous transporte sur la rive nord maintenant, Henri IV, direction sud, à hauteur de Charret, un ralentissement dans le secteur aussi. Même chose, Laurentien, direction sud, pour accéder à la capitale. Et je termine avec Capitale, direction ouest. Il y a un petit ralentissement qui s'est créé au cours des dernières minutes entre Laurentienne et Henri Bourassa. S'il y a quoi que ce soit d'autre ou vous avez des informations, 418-971-1021 par texto.
C'est 26 degrés à Québec en ce moment, alternance soleil-nuage. Je vous dirais qu'on est pas mal dans l'alternance nuage. Là. On est pas mal dans le nuage de l'alternance à Le Bourgneuf. Est-ce qu'il fait beau de votre côté? Ressentez-vous la chaleur parce que ça va monter jusqu'à 31 et même à 38 avec l'humidex. Ce soir et cette nuit, ça se rafraîchit, mais pas tant que ça, 18 degrés. Là, c'est pas comme nos soirées à 14-15 où ça faisait usage de climatisation. Mais demain, on recommence avec une journée peut-être pluvieuse, quelques orages prévus ici et là et des percées de soleil. C'est ça, on fait avec, on n'a pas le choix et il y en a qui sont en vacances. C'est comme le cas de notre prochain invité, Rick Loutier, commentateur sportif qui est sur la route mais qui m'accorde un peu de temps ainsi qu'à Mathias. Salut Ray!
Salut Pascal, comment ça va?
Ça va bien, je suis super contente de te parler. Et toi, t'es où là?
Je reviens de la belle région du Bas-Saint-Laurent. Wow. On est passé quelques jours, au Bas-Saint-Laurent. Et puis, mais le fleuve, là, c'est une richesse incroyable qu'on a. Puis pour les gens du Bas-Saint-Laurent, bien, ils le savent plus que nous, là, mais c'est juste fantastique de vivre les derniers jours. Quand il fait beau au Québec, c'est dur à battre. Honnêtement, il y a des gens qui paient pour ce qu'on a vu comme décor, des fortunes. C'est magnifique. C'est une région que j'aime beaucoup, que je visite régulièrement à cause de mon travail pour raisons professionnelles. Rimouski, c'est une ville que j'adore, mais la région du Bas-Saint-Laurent, j'ai découvert un petit peu plus encore. C'est fantastique. Hier, un petit souper à Saint-Luc-sur-Mer, oh, wow, avec le fleuve devant nous, le coucher du soleil. Non, regarde, c'est juste parfait.
Il y a beaucoup de choses.
C'est juste très bien.
Il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit. Bon, premièrement, tu as dit quelques jours, mais tu as dit quelques semaines pour quelques jours. Ça veut dire que tu es bien reposé. Ça fait du bien d'être dans le bas du fleuve.
Oui.
Ça t'a parlé des semaines. Ensuite, tu as dit des gens qui paient extrêmement cher pour ces coins de pays-là. Quand il fait beau, ici au Québec, on est choyé. Bon, il ne fait pas tout le temps beau. Ces temps-ci, c'est 3 jours sur 45. Mais tu as raison, c'est un des magnifiques coins de pays. Souvent, on allait en Gaspésie, hein, c'est là où on se dirigeait. Mais tout ce qui est bas du fleuve, Kamouraska est à gagner dans le cœur des Québécois. Il y a des entreprises qui naissent, il y a des gens qui s'expatrient pour aller vivre un peu ce climat-là, sur le bord du fleuve, parce que ça apporte beaucoup. Mais le temps a ralenti dans le bas du fleuve, là.
Aucun doute, c'est en plein ça. Le temps a ralenti. On n'avait pas vraiment d'horaire, mais c'était parfait. C'était comme ça que ça devait se passer. Puis on est allé se promener un peu, on a visité. J'avais jamais vu ça, mais le sous-marin Onondaga, j'aime ça dire ça, Onondaga, mais c'est le Onondaga, c'est quand même impressionnant. Puis il y a différentes choses comme ça. Noah Spa, il y a un Noah Spa ici à Rimouski. Encore là, le fleuve. Le fleuve, c'est la vedette dans notre voyage. Mais moi, j'adore ça, l'eau. J'adore l'eau. Puis mais le fleuve, il est là, il est à portée de main. Donc, mais oui, le temps ralentit. Plus on s'en va vers l'est, le temps ralentit. Puis ça, je constate ça à chaque année. Entre autres, quand on se retrouve dans les Maritimes, au Nouveau-Brunswick.
Avec les remparts.
T'as pas le choix. Oui, c'est ça. T'as pas le choix. Ces gens-là vivent à leur rythme, vivent au ralenti. Puis tabarouette, t'embarques dans ça. Puis ça fait du bien. Ça fait du bien de vivre ça pendant quelques jours. Vraiment, ça a été... on aurait fait le plein d'énergie dans les derniers jours.
Oui, parce que là, la saison va être haute en couleur dans le domaine sportif. Puis là, tu es en route vers la fromagerie des Basques, si je me souviens bien, là, l'itinéraire que tu fais. C'est très vulgaire si tu t'arrêtes pas à manger une poutine. Je veux juste te le dire, je serais déçu.
Tu mets de la pression, là. J'ai de la pression dans l'auto aussi, donc... Je pense que ça va être ça.
Parfait, ça. Même si vous n'avez pas faim. Eric Loutier, tu commentes le sport depuis des années et tu as toujours été un fervent de la ville de Québec. Tu l'as fait rayonner dans le football, dans le hockey, dans bien des sports. Qu'est-ce qui nous attend là, pour cette rentrée sportive?
Bien, beaucoup de choses. Honnêtement, il y a 3 équipes sportives qui font vibrer les gens de Québec depuis plus de 20 ans, mais il y a d'autres équipes de plus bas niveau qui le font. Mais 3 équipes dont on parle à chaque année, puis... On en parle parce que très souvent, c'est des équipes qui ont du succès dans leur domaine respectif. Puis encore une fois, cet été, je commence avec les Capitales parce que les Capitales sont encore parmi les meilleures, sinon la meilleure équipe de la Ligue Frontière. Le stade est plein. C'est pas tous des amateurs de baseball. C'est ça la beauté de l'affaire. C'est ça moi, je trouve que c'est ça qui est le plus valorisant pour les Capitales. C'est qu'il y a même des gens au stade qui sont pas naturellement des amateurs de baseball, mais qui viennent passer un bon moment pendant quelques heures. Et puis, ils ont réussi ça, les Capitales. Puis là, ça va bien, mais il faut revenir dans le passé. Puis cette semaine, on a honoré Michel Laplante. Je pense qu'il en a parlé à quelques reprises dans les entrevues, à quel point il y a eu des moments clés, des moments où ça se pouvait que ça arrête, les Capitales de Québec qui existent depuis plus de 20 ans maintenant. Puis je pense que c'est une fierté pour les gens de Québec. Donc, les Capitales, dans les prochaines semaines, vont probablement batailler pour le titre, encore une fois, de la Ligue Frontière. Mais simplement, le succès au guichet de cette équipe-là, dans le merveilleux beau stade qu'on a à Québec, et on parlait de la richesse du fleuve, puis la beauté de Québec, mais de la province de Québec, mais dans la ville de Québec, on a un des plus beaux stades qui existent. C'est vétuste, c'est vieux, mais c'est ça, le charisme et le charme du stade également. Alors... les Capitales, encore une fois, ont connu un bel été, vont connaître certainement des bonnes semaines dans les semaines qui s'en viennent. Et puis, ben ça, c'est une fierté pour les gens de Québec. Dans quelques jours, le Rouge et Or football va se mettre en branle. Cette année, on accueille encore le tournoi de le match de championnat, la Coupe Vanier, au mois de novembre. Le Rouge et Or ne sera pas trop loin, encore une fois. C'est une équipe qui a fait grandir le football. Et il y a de ça quelques semaines, là, il y a un jeune Québécois, le Gabriel David-Georges, qui a signé un contrat de 6 millions de dollars pour aller jouer aux États-Unis. Pas juste à cause du Rouge et Or, mais un peu quand même le Rouge et Or qui donne le goût, qui fait rêver les jeunes de jouer au football, qui devient l'objectif de bien des joueurs de football québécois. Tantôt, quand je disais il y a des équipes, en bas des trois équipes, bon, Capitale, Rouge et Or et Rempart, en bas de ça, il y a plusieurs équipes qui performent bien dans leurs domaines respectifs. Puis dans le monde du football, là, moi, un de mes plaisirs de l'automne, quand j'ai du temps, c'est d'aller voir le football scolaire, le football collégial, pas trop loin de chez vous. Il y a une équipe qui joue, il y a une équipe qui performe, il y a des jeunes qui sont de meilleurs athlètes encore que c'était il y a 10 ans. Le football à Québec est en grande santé, donc c'est là. C'est la saison du football n'est pas très longue, là. Ou septembre, octobre, puis novembre des fois, c'est tout. Mais toute l'année, les jeunes, ils se préparent pour vivre Mais ces matchs-là, pour vivre l'intensité des parties de football, donc... Ça va être ça notre automne encore.
Il faut en profiter avec une équipe en santé. Mais Ray, est-ce que je me trompe que on dirait que c'est comme régulier maintenant ou semi-régulier, même si c'est pas à chaque jour, qu'il y a des jeunes qui sont recrutés aux États-Unis. On voyait moins ça auparavant.
Il y en a plus.
C'est ça?
Oui.
C'est la vignette du Québec qui a réussi à se faire valoir?
Oui, oui. Il y a des équipes scolaires même aux États-Unis qui ont découvert le bassin de joueurs ici dans la région de Québec. Puis là, ils viennent recruter maintenant. À l'école secondaire. Les meilleurs athlètes de l'école secondaire ont la possibilité d'aller jouer aux États-Unis pour vivre une expérience, mais également peut-être entretenir leur rêve de jouer éventuellement. Bon, dans les collèges américains, c'est déjà un bel objectif. Et pourquoi pas rêver à la Ligue nationale de football? Il y a un Québécois, la semaine dernière, encore une fois, Mathieu Bergeron, qui a signé un contrat. Il est présentement le joueur de ligne à sa position le mieux payé de la NFL, pas de la petite ligue de la paroisse, même si la ligue de la paroisse de Saint-Laurent, c'est très bon, là, mais dans la NFL, c'est un Québécois de Victoriaville qui est maintenant le mieux payé à sa position. Ça, c'est sûr que ça fait rêver les jeunes. Donc, mais oui, il y a plus de... La porte, c'est comme ouverte pour les joueurs québécois aux États-Unis. C'est le cas au football, c'est le cas au baseball, c'est le cas au hockey de plus en plus, mais je dirais malheureusement pour nos équipes ici, mais heureusement pour les jeunes, parce que moi, j'ai toujours cru ça, les meilleurs ont toujours plus d'options. Et là, ben, ça veut dire que nos jeunes Québécois, il y a des gens qui les regardent et qui disent « Toi, t'es pas pire, toi, viens t'en jouer avec nous. » Puis aux États-Unis, le bassin de recrutement est quand même plus large, mais ils viennent chercher des bons joueurs québécois ici aussi. Alors, c'est à nous de continuer d'entretenir cette base-là, puis... moi, ce que j'aime, c'est que ça fait rêver les jeunes.
Ouais, mais ça me fascine. Ça me fascine à quel point le Québec a pu s'afficher. Ça va peut-être donner des raisons au PQ de vouloir devenir un pays, mais on va rester dans le sport.
C'est quand même une bonne nouvelle que dans plusieurs sports comme ça, on est de plus en plus capable d'avoir des têtes d'affiche. Là, je veux dire, pour ces milieux-là, c'est fantastique pour le développement du sport ici.
Totalement, totalement. Puis on a un Félix Auger-Aliassime. Bon, malheureusement... blessé cette semaine, mais Félix fait rêver les petits bonhommes et les petites bonnes femmes du club Avantage. Là, Félix Auger-Aliassime, là, c'est leur Sidney Crosby. Là, c'est à chaque fois qu'il donne un coup de raquette, il se voit dans Félix Auger-Aliassime. Là, donc, c'est ça, c'est la beauté. Puis, il faut pas empêcher ces jeunes-là de faire le chemin par la suite. C'est des fois, il faut leur permettre de le faire. C'est ça que continuer d'entretenir cette base-là, puis la passion. Pour ta raison, Mathias, moi, quand j'étais tout jeune, c'était steak, bledin, patate. Là. C'était hockey, baseball, hockey l'hiver, baseball l'été. J'ai joué au football un petit peu, mais ça commençait là, dans les années 80-90, un peu plus.
Soccer.
Et présentement, ben, les jeunes, ils ont une panoplie d'options, hein, Pascal. Il y a toutes sortes de sports. Il y en a des nouveaux qui se créent. L'hiver, c'est le ski acrobatique qui s'est développé pour les Québécois. C'est ça qui est plaisant aussi, la panoplie de tous les sports que les jeunes peuvent pratiquer.
Hey, le Quidditch, Ray.
Le Quidditch, ben oui. Je pourrais peut-être m'essayer au Quidditch. Pourquoi pas?
Ouais. Hey, tu ris, là, mais on s'est moins vu dans les dernières années. J'ai même commencé le dodgeball. On est revenu avec des ligues. Oui. Puis cette ligue-là est super grosse à Québec. Ça fait en sorte que des gens qui jouaient plus ont commencé à bouger puis à se retrouver en semaine. Bon, on s'entend qu'on ne fera pas les ligues aux États-Unis puis je ne serai pas recruté pour 34 millions de dollars. Là. Mais l'espoir fait vivre.
Mais bouger. Bouger, t'as le mot juste, là, Pascal. Bouger. Puis C'est ça, c'est la santé en même temps. Là.
Physique et mentale. Puis Ray, voilà. on te vole quelques minutes de plus parce que tu vas être encore au Rempart cette année. Oui. Tu vas encore commenter les matchs et tu vas encore te promener avec l'équipe. On s'attend à quoi? Oui.
Très bonne saison pour les Remparts. C'est le 30e anniversaire des Remparts. Ça passe vite depuis leur retour en 1997 parce qu'ils ont existé une première fois. Ils sont partis au milieu des années 80 quand les Nordiques prenaient toute la place à Québec. Ensuite, ils sont revenus en 1997. Et là, cette année, c'est le 30e anniversaire. C'est l'année numéro 4 de la reconstruction après la conquête de la Coupe Memorial en 2023. Puis cet été, Simon Gagné a connu un bel été parce qu'il a réussi à convaincre des excellents joueurs de venir jouer avec les Remparts. Je parlais tout à l'heure d'avoir des options quand tu es un bon joueur, quand tu es un excellent joueur dans ton domaine. Mais il y a des joueurs qui vont jouer avec les Remparts qui avaient des options et ils ont décidé de venir tenter l'aventure de la LHJMQ, James Cantlebury et Carter Meyer. Donc, la prochaine saison des Remparts, ce qui est particulier, c'est qu'il y a plusieurs de ces joueurs-là qui devraient être repêchés ensuite dans la Ligue nationale de hockey. Le plus haut total de joueurs dans une année repêchés dans la Ligue nationale de hockey qui avait joué avec les Remparts, c'est 4. C'est possible qu'on éclipse cette marque-là. Il y a de 4 à 6 joueurs des Remparts qui vont être sous la loupe, sous le regard des dépisteurs pendant toute l'année. Ça, c'est une chose. Mais également, les Remparts sont rendus pas à maturité, mais pas loin dans leur développement. Ils vont faire partie des 4-5 meilleures équipes de la Ligue de hockey junior Maritime-Québec. Puis dans quelques semaines, on va savoir si les Remparts présentent ou non le tournoi de la Coupe Memorial en 2028. Alors, c'est une belle année qui s'en vient pour les Remparts. Ça débute d'ailleurs la semaine prochaine. Déjà, les camps d'entraînement vont commencer, mais ça va être une belle saison pour les amateurs de hockey junior.
Un bonheur de t'avoir parlé, même sur la route, pendant tes vacances. C'est un honneur, un privilège, Ray, de t'avoir dans ma vie, qu'on t'ait aussi comme commentateur sportif. Moi, j'ai posé ta candidature pour commenter les matchs à Prime pour les matchs canadiens, là, le mercredi. J'attends des nouvelles, je travaille fort, je m'en vais les rencontrer la semaine prochaine.
Ça me prend un agent, c'est parfait.
On va te faire ça, on va essayer de récolter des millions de dollars pour toi, Ray. Prime peut payer, non, mais faire sa part. La radio, étant ce qu'elle est, nous permet d'avoir rencontré plein de personnes dans différents parcours de notre vie. Puis tu fais partie de ces grands-là qui ont mené et qui ont ouvert le chemin à des gars comme Mathias, entre autres, qui trippent sur le sport, qui travaillent fort maintenant, et d'autres qui ont été tes collègues, puis que ça a été un réel bonheur. Je veux juste te saluer aussi pour les beaux mots que tu as envoyés envers Nathan cet été. Oui. Nathan Meyer, qui a fait des émissions ici parler à Boulevard 102.1.
Vous avez fait du très bon travail. Je me promène, moi, sur la route souvent, puis je ne veux pas, on pitonne, là, puis j'ai bien aimé vos émissions, Pascal, Mathias, puis Nathan. Vous avez été très intéressant tout l'été. C'est pas toujours facile de faire du remplacement, mais il faut que tu prennes ça d'une autre... la lorgnette de « c'est une occasion pour moi, c'est une chance que j'ai », puis avoir un micro, c'est un privilège, peu importe où ça se passe dans le monde. Il faut toujours être le plus intéressant possible quand on a un micro. Ça, vous avez bien réussi cet été, votre gang à vous autres.
Merci du fond du cœur, puis bonne saison sportive, Ray, puis de faire rayonner les sportifs et le sport comme tu fais pour la Ville de Québec. C'est un privilège aussi.
Salut les amis, bonne journée.
Salut, bonnes vacances, puis n'oublie pas la poutine, parce qu'on va te le dire. Hey, la poutine à la fromagerie des Basques, c'est un détour pas si long que ça à partir de la Ville de Québec, mais qui se vaut. Je suis certaine que les gens à qui on parle en ce moment la voient à la petite souris avec le morceau de fromage. C'était Rick Loutier, commentateur sportif, qui était sur nos ondes. Puis oui, il avait passé un commentaire, même qu'il nous avait écrit personnellement. Moi, j'y crois. Dans cet univers de compétition-là, on reste en compétition. Ça reste qu'on veut donner le meilleur show. On veut être au summum pour vous autres. C'est le respect qu'on vous doit. Puis pour les auditeurs, c'est ce qu'on essaie d'atteindre à chaque jour. Tu sais, aujourd'hui, on a eu branle-bas de combat pour l'émission. Mathias, on se préparait, puis on dirait que tout s'écroulait autour. C'est pas la fin du monde, non, sauf pas des vies. Mais il fallait jongler avec plein de petits pépins qui arrivaient. Puis déjà, c'est des semaines où on n'a pas beaucoup d'actualité. Puis qu'est-ce que je t'ai dit?
Tu m'as dit, faut rester pertinent.
Pour quelle raison?
Ben, pour donner le meilleur show aux auditeurs. Puis t'as 100% raison. Notre but premier, c'est de vous accompagner au cours de votre journée, mais c'est aussi de vous divertir puis de vous informer convenablement. En pertinence.
Et voilà. Et de l'autre côté de la pause, on va le faire avec notre collègue Audrey Pinchot, qui fait partie de ces petits pépins-là, mais elle va bien, là. Tout va bien. C'est juste que elle n'avait pas de temps pour nous autres. Elle est en train de concevoir un tout petit bébé, trop mignon. Puis des fois, ça prend du temps, puis on en a moins pour nous. Puis ça va aller de pire en pire pour nous. Mais Soyez conscient qu'elle vous aime puis qu'elle est là pareil en ondes. Malgré tout, elle s'est dépêchée pour venir nous jaser dans le Point de Max. On vient avec elle dans un instant.
Le Point de Max. Le Point de Max. 100% parlé tout l'été.
Votre beau garçon favori... Non, je peux pas dire ça. J'en ai un autre devant moi. Je parlais de Max en voulant dire qu'il revient la semaine prochaine.
OK, fait que là, c'est un combat pour savoir c'est qui, moi.
Non, j'embarque pas là-dedans.
Ben non.
Votre très efficace, professionnel et chevelure soyeuse, Mathias Turcotte, est avec moi en studio.
Toujours présent.
Vraiment un bonheur de finir la semaine Le Blitz avec toi. Je sais que tu as des tâches qui sont, ma foi, fort impressionnantes. Mais on a un petit lourd aujourd'hui au niveau de l'actualité. On peut même dire, quelle est la manchette du jour, Matt?
La manchette du jour. Ça s'est officialisé au cours de la dernière heure. 3 candidatures dans la région de Québec pour la CAQ. Dans Chauveau, Jean Lesage et Vanier-les-Rivières. Les deux candidatures qui importent, c'est surtout dans Vanier et Chauveau parce que c'est les deux circonscription où la CAQ a des chances de l'emporter.
Oui.
Tout d'abord, dans Vanier, c'est Françoise Favergeon-Fortin, ex-vice-présidente de Exportation et Développement Canada, qui va se présenter. Et du côté de Chauveau, Christian Lachance, un entrepreneur de Lac-Beauport, présentement président de la Chambre de commerce de la Jacques-Cartier, qui va être justement candidat dans Chauveau. On le reçoit tout à l'heure dans l'émission du midi à 12h30.
À ne pas manquer. Puis si vous étiez là en début d'émission, Étienne-Alexandre Beauregard, commentateur politique, était là de la famille Cardus. Et on a eu bien du fun à jaser avec lui. On a parlé même de la politique. Hein. Qu'est-ce qui nous attend à l'automne? Pas juste en termes de parti puis de politique normale. Qu'est-ce qu'on veut pour la suite des choses, puis comment on peut s'y prendre. Puis il a commenté, entre autres, pour chacun des partis, c'est quoi le candidat type qu'on annonce ces temps-ci. Dans la circulation, c'est au ralenti. Laurentienne Sud, direction Sud, là, justement, pour l'embranchement de la capitale, c'est toujours plus complexe,
oui,
mais
comme,
il y a d'autres endroits.
Quand même pas mal d'attentes dans le secteur, mais c'est surtout sur la rive sud, 20 ouest entre Taniata, et ça remonte jusqu'à Monseigneur Bourget présentement, que c'est pare-choc à pare-choc très difficile. Il y a clairement de quoi dans le secteur, j'ai pas nécessairement d'informations pour le moment. En plus des travaux. Guillaume Couture, direction ouest à hauteur de Chemin du Fleuve en raison de travaux. Quand même pas mal d'attentes aussi. En direction est sur la 20 cette fois-ci entre Taniata et Avenue des Églises, c'est au rouge. Il y a quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021, ça se passe par texto.
Merci mon ami. Puis là, je me dirige vers Audrey Pinchot qui est un petit peu plus tard à l'open mic aujourd'hui. On a brassé les choses, on l'a déplacé un petit peu. Audrey, habituellement, Mademoiselle V est avec nous.
Oui, c'est ça. C'est comme s'il n'y avait pas d'open mic, mais on l'ajuste un peu aujourd'hui parce que je t'entendais avant la pause, bébé va bien, je vais bien, tout est correct, mais Val a eu une petite urgence familiale dernière minute, là, un peu ingérable, ce qui fait en sorte qu'on a dû annuler sa première avec nous. Elle reste pour l'automne dans l'open mic comme conseillère en sexologie, mais là, c'est ça, on doit faire avec ce qu'on a. Puis normalement, le vendredi, Max puis moi, au-delà d'avoir Val qui est avec nous, on fait toujours les nouveautés musicales.
Oui.
C'est un petit bonheur qu'on a tous les deux, une petite passion qu'on a tous les deux, fait qu'on prend toujours le temps de les faire. Puis je me suis dit, ben pourquoi pas vous les présenter, parce qu'on essaie de garder ces bonnes habitudes-là. Hein. Puis il y a quand même du stock intéressant aujourd'hui. Ça tire un peu partout. Là, je sais que t'es à la console du Spotify pour une des
Qu'est-ce
premières.
Que tu veux dire?
mais je vais. Écoute, suis-moi, ça va bien aller. Je veux qu'on commence avec l'album de 21 Pilots. Si vous êtes des fans, en fait, c'est pas un nouvel album avec des nouvelles tunes en soi. C'est plutôt un album Live in Mexico City, More Than We Ever Imagined. C'est comme ça que ça s'appelle. 21 tunes, 1h25 minutes de stock. En fait, c'est l'audio du film concert qui existait déjà. Ça a été filmé durant leur tournée Clint World Tour l'année passée. Puis là, vous allez retrouver des classiques là-dessus comme Ethan's Ride, Jumpsuit, Stressed Out. Je vous laisse écouter quelques versions.
Stressed Out, entre autres. Comme tu dis, c'est un spectacle live qu'on a mis sur un album. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice to sing some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I say. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. Le son a quand même été bien travaillé pour un album.
Ah, vraiment, mais les albums live sont super bons aujourd'hui. C'est drôle parce que moi, c'est le genre d'album que je peux prendre le temps d'écouter une bonne fois avec des écouteurs, mais je peux pas mettre ça dans mon char, mettons.
Mais non, parce que t'entends mal.
Ben, oui, j'ai comme l'impression, je trouve que tu le vis pas de la même manière, je sais pas.
Mais comme tu dis, les spectacles live sont mieux enregistrés maintenant, mais les écouteurs nous donnent toute la dimension de la musique.
Absolument.
Il y a bien des gens
puis
qui vont préférer écouter ça dans des écouteurs que sur leur système de son.
C'est pas mal mieux, même, à mon avis. Hein.
Il y a, par contre, la technicalité de la foule qui chante à la place de l'artiste qui peut être un peu plus tannant parfois.
Mais c'est le principe en même temps.
Jumpsuit aussi.
Ensuite, je te dirige vers Alex Warren, qui est un artiste qui prend de plus en plus de place dans les dernières années. Il était du côté de Phono en tête d'affiche l'an passé. Sa grosse tune, vous la connaissez, c'est Ordinary. On la joue entre autres dans le Rock and Chill les fins de semaine. Tout le monde la replace. Et là, ben, il y a son deuxième album qui s'en vient, Wild Child, qui sort le 28 août prochain. Puis aujourd'hui, on a sorti la chanson Rescuer, qui va se retrouver évidemment sur l'album le 28 août. Government trucks, I can't bear to go back to the place I was before. The last of the strength that I had to collapse right at your door. Oh, 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 the damage was done. I thought that I was a stranger to love. C'est du Alex Warren comme on le connaît. Là,
non, mais c'est ça que j'allais dire. C'est super bon, mais... Le problème avec Alex Warren que j'ai, c'est que chacune de ses tunes, on aurait dit une version d'Ordinary en moins bon.
Je comprends ce que tu veux dire. Mais ses chansons ont la même signature, définitivement. Ouais. C'est drôle parce qu'on en parlait tantôt dans le bureau avec des collègues. Puis tu sais, c'est vraiment le good guy next door, Alex Warren. Je veux dire, très, très relax sur le stage, très accessible. Il est comme, il est beige, tu sais. Puis c'est pas nécessairement négatif en passant quand je dis ça, là. Parce qu'il y a des gens qui adorent le son. Ça me fait penser un peu à du Benson Boone, en fait. Les sons se ressemblent pas, mais je parle de la façon de faire. Benson Boone, ses chansons, c'est toute la même signature.
Ça sonne
aussi.
Toutes très similaires, effectivement.
C'est la même signature, la même façon de faire, la même recette. Donc, Alex Warren, son album qui est prévu pour le 28 août prochain, Wild Child, c'est comme ça que ça va s'appeler si vous avez l'intérêt pour l'artiste.
Ça, c'est Passenger. Ça semble bouger un petit peu plus.
Je veux qu'on se dirige vers Weezer qui nous sort une autre chanson en vue de son album éponyme Doré qui est prévu pour le 21 août prochain. On est à la 3e sur 10. La toune qui sort aujourd'hui s'appelle CEO. Tu l'as. Descends un petit peu. Descends. CEO, exact.
Encore planant, la Weezer. But nobody wants to hear that. They just want the classics. I can't blame them, really. Something special about you, really. I gotta grow up and be a real adult. Stop complaining and give the people what they want. Here comes the sea. Hey, tu vois, je l'avais pas entendu encore, elle me fait sourire. Moi, c'est le genre de chanson que je peux apprécier assez facilement. Donc, Weezer qui sort son album le 21 août prochain. Là, Max n'étant pas là, je vais le rendre fier quand même. Stella Machine
Lefty.
Machine Gun. Non, okay.
Non, Stella Lefty, qui est une artiste qu'on a à peu près découvert en même temps, une découverte des derniers mois. Elle a sorti quelques grosses tunes qui ont immédiatement pogné. Peut-être que tu peux mettre Boston, qui sort toujours dans les premières. Les gens vont la reconnaître. Là. Puis là, ben, après plusieurs chansons qui ont pas mal pogné, parce qu'elle a sorti I Know, Thinking About You, il y en a plein, elle a décidé de sortir enfin son premier album après son passage à Oshiaga le week-end dernier. Ça va s'appeler Long Way Home, c'est prévu le 21 août aussi, ça va être une grosse journée de sortie, ça. Et on a déjà 8 tunes sur 14, il y a du monde qui déteste ça, là. Mais la nouvelle chanson, la nouveauté qu'on a aujourd'hui, c'est Lean In, Kiss Me. Et je dis, je vois Mathias, tes yeux, il y a des gens qui aiment ça, c'est qu'il y a beaucoup de puristes de la musique, puis je les comprends. comprends, qui aime écouter un album, c'est-à-dire en entier, quand il sort pas, en l'ayant déjà entendu à moitié.
Ben là, c'est comme une fausse sortie. Là. T'as juste 6 ouais. tunes sur 14 c'est qui sortent la date de la sortie.
C'est ça. C'est de prendre tous tes singles puis de les mettre sur un premier album. C'est vraiment ça que Stella Lefty fait. Donc, Lean In, Kiss Me. Baby, I need to know. Would you lean in? Would you kiss me? Tell me, do you feel what I feel when you're with me? Are you seeing? Je vous parie que Max LaRouche la connaît déjà par cœur.
Mais ce qui me fait rire, c'est qu'on dirait de la pop de nos années de jeunesse où on tripait, mais en country.
Mais pop country, plus... exact, vraiment.
Fait qu'on est dans cette industrie-là, un petit peu plus commerciale pour cette jeune fille-là, je trouve, à l'écoute, mais qui va passer partout puis qui va être capable de faire des hits.
Ça passe dans les radios, là.
Mais oui. Tu vois, étant donné que Max LaRouche n'est pas là, je vais prendre sa place. Je vous dis, ça, c'est la toune de l'automne.
Oh mon Dieu!
Mettez-la à votre calendrier.
Non, parce que si tu veux faire ton Max, là, c'est-tu parce qu'elle est cute ou parce qu'elle est bonne?
Surtout, je pense, parce que Max, tout est tout le temps la meilleure affaire au monde. Oui.
Ah, puis avec Stella Lefty, beaucoup
aussi.
Ah
oui, il l'aime. Smash Mouth, qu'on connaît pour All Star, I'm a Believer, vous le replacez assurément. Ils sortent un album mercredi prochain, ce qui est assez spécial. D'habitude, c'est le vendredi.
Y a-t-il un autre Shrek qui va sortir? C'est peut-être pour ça.
C'est une bonne question. C'est une possibilité. Il faudrait que j'aille au pas loin. 12 chansons. On est à 3 de sortie. Et aujourd'hui, celle qui sort s'appelle Monsters on My Block.
J'ai pas de nouveauté.
Comme, help!
Je vous le jure que je l'ai.
Non, t'es bonne, regarde-tu là, oui, voilà, c'est exact. Ça.
Et voilà!
Voilà, on y arrive. Monsters on my block.
J'avais de la chanter. De band que je suis pas capable de prendre au sérieux, mais que j'aime.
Je comprends ce que
pour
tu veux
dire. Pour moi, c'est un film. Pour moi, c'est une caricature.
C'est comme théâtral.
Ouais.
Ouais, je comprends. Denis m'en voudrait de ne pas parler de Neil Young. Neil Young ouais. and the Chrome Hearts pour ta recherche qui sort Second Song, une toune de 11 minutes. Vraiment pas dans ma table. Mais si vous êtes des fans, peut-être serez-vous comblés. Donc, Second Song est la chanson qui sort aujourd'hui, leur deuxième album qui sort le 18 septembre pour Neil Young and the Chrome Hearts. Je vous laisse entendre. Tu peux même, si tu veux, nous donner un petit coup de pied sur le tourne-disque. Généralement, 11 minutes, ça en passe du stock.
Ben, 10 minutes plus tard,
t'as pas la même place? Who still remembers someone? Donc, c'est une très longue chanson, finalement.
Elle ne fera pas la radio, à moins qu'elle soit coupée par sa longueur. Par contre, imaginez, automne, verre de vin, un petit mijoté.
Ah, oh, mais c'est, écoute, c'est le bord du feu, assurément. Ouais. Ensuite de ça, Luke Bryan qui va sortir le 18 septembre. Autre grosse date à date, là. L'album Signs. Et aujourd'hui, on a la chanson titre carrément. Donc, la toune qu'on sort s'appelle Signs également pour Luke Bryan.
Last night, you said you had the last of us and stormed out. C'est donné une petite swing de pop. I'm better ever since you're gone. I don't wanna go on and on. I should be sad, but I'm not. It's half past cold beer o'clock. Might take a sip, take a shot. Hell, why not? I might be riding high in the new Chevrolet.
I might be wearing.
C'est commercial, c'est pop. Oh oui. Brian, ouais. Il a décidé de
J'ai l'impression que Gab Marino nous l'aurait présenté dans le top de sport aujourd'hui, normalement, si on l'avait eu.
Hey, clin d'œil pour Smash Mouth, des gens qui nous disent qu'ils seront au festival Lorettin de Loretteville prochainement. C'est puis il y aurait un cinquième Shrek à venir.
Bon, fait que c'est ça l'affaire. Festival Lorettin. Je vais même me le prendre en note pour être sûr de vous en jaser cet après-midi. Et je vais terminer avec The Darcys, qui est un band de Toronto. Je ne sais pas si vous les connaissez. Duo, en fait, je devrais dire, de Toronto, qui sort un single, le premier depuis 2024, Ben Rock. La chanson s'appelle The Ride. Dernier album était sorti, Good Times, qui était sorti en 2024. Et là, la toune aujourd'hui, The Ride.
Celle-là, je ne l'ai pas pour vrai.
Là, tu es dans l'album, là, t'es dans l'album bon Good album. Time. Ouais, fait. Mm-hmm. The Ride, exactement.
Ben, dans le fond, il écrit The Ride. J'ai The Ride.
Voilà. Fait que ça fait le tour des nouveautés, je vais dire, intéressantes, entre guillemets, de mon point de vue. Il y en a plein d'autres qui sont peut-être un peu moins dans notre son. Si jamais vous êtes curieux, je ne l'ai pas encore écouté, pour être honnête, là, peut-être vous vous souvenez du phénomène Enola Bédard.
Oui.
Qui, pendant la pandémie, entre autres, se filmait, dansait. Elle, c'est une danseuse professionnelle, faisait des vidéos chez elle, s'est ramassée à déménager à LA, danse maintenant avec J-Lo, Shakira, Sean Paul, tout ce que vous voudrez. Super talentueuse, mais elle s'est comme découvert une passion pour le chant et la musique dans la ou les dernières années. Puis elle sort son premier album aujourd'hui. Fait que si jamais vous avez envie d'entendre ce que sa voix peut donner, j'ai même pas jeté un coup d'œil encore, mais ça existe, sachez-le. Fait que c'est les nouveautés d'aujourd'hui, en fait, de nouveautés musicales. Je sais que Denis Puvéreau en ont ajouté, fait que comme à l'habitude, dans Gravel en retour, on va faire le tour un peu plus tard cet après-midi.
J'en ai quelques-unes de Enola Bédard, on le fera entendre. Donc, une artiste multidisciplinaire, si je comprends bien. Pour le Festival Lorettain, on me dit... Là, on me dit, c'est à Loretteville, la personne qui t'a écrit Loretteville. C'est à l'ancienne Lorette, la personne qui t'a écrit Loretteville, c'est pas bon. Donc, Festival Lorettain de l'ancienne Lorette. Mêlez-vous pas.
C'est important, la distinction.
Ben, moi, je pense que c'est important d'avoir les frais, les faits. Ben, regarde, Enola Bédard, là.
Rouge, c'est vendredi, hein?
Loretteville.
OK, fait qu'elle chante, en fait, c'est sur quoi elle danse, là.
Oui, ça paraît que ça a été travaillé aux États-Unis. Je crois que ça doit être le cas, là, entendre quelque chose d'aussi travaillé comme ça, là. Puis c'est pas négatif, là. Mais tu sais, ça fait musique américaine, ça va pogner.
Ah ouais, tu penses,
ah ouais,
toi?
Moi, tu vois, j'aime pas penser.
J'aime pas penser.
J'ai pas dit que j'aimais ça. J'ai pas dit que c'était mon style. Moi, je pense que ça va se danser.
Mais c'est le genre, plus, je dis ça vraiment, c'est une danseuse exceptionnelle. Mais c'est vraiment le genre de chanson où ça prend pas nécessairement une voix, là.
Oh non, pas du tout. C'est pour ça que je dis que c'était énormément travaillé.
C'est ça, là. C'est n'importe qui peut rentrer en studio avec un peu de toto.
Moi, ça me fait penser à comme, mettons, quand des influenceuses américaines essayent de faire de la musique.
Non, on est un peu là. Je pense que c'est assez dit. Je vais trouver une autre corde à mon arc, ce qui n'est pas méchant, là. Je veux dire, c'est bien parfait. Mais c'est une danseuse exceptionnelle. Je vais appuyer là-dessus. Chanteuse, ben, ce sera à vous de décider.
Ouais, ben, il y en a une qui s'était essayée aussi dans le temps, qui s'était payée par ses parents, puis elle chantait ceci. Ça, c'était pas rendu loin.
Ouais, ben là, c'est pas aussi pire que ça non plus.
Mais tu sais, c'est correct d'essayer de se découvrir. Hey, t'entends le son dans le nez, là.
Ça fait mal.
Ça, c'était bon, là.
Mais quittez pas, hein. Il y a autre chose après, là.
Merci, Audrey Pinchot, d'être passée en studio. On te retrouve dans le retour tantôt avec Denis et Véro.
Bye. Le point de match.
Il nous reste officiellement 12 minutes ensemble à Boulevard 102.1 dans le Point de Max avant le retour à la programmation officielle la semaine prochaine. Presque tout le monde va être là. Alors ça, c'est l'avantage pour vous. On va revenir au bureau, dans nos habitudes, tranquillement, pas vite, avec votre gang du 102.1. Ça rime aussi avec congestion à nouveau sur les réseaux routiers. Alex Laramé, qui a passé l'été avec nous, se demandait où le trafic à Québec. On le comprend cette fois-ci. Mais ça va revenir et on le sent un peu aujourd'hui, Mathias.
On le sent beaucoup, surtout sur la rive sud. Je pensais qu'il y avait quelque chose sur la 20 direction ouest. Finalement, ça semble seulement être vendredi. Entre Taniata et Monseigneur Bourget, là, présentement, c'est au rouge, très, très difficile la circulation dans le secteur. En direction est, c'est entre Taniata et Avenue des Églises. Quand même, vous mentionnez Guillaume Couture, direction ouest, hauteur chemin du fleuve, quand même un bon ralentissement qui s'est installé en raison des travaux dans le secteur. Un ralentissement qui commence même à se créer sur le pont Pierre-Laporte, là, en direction sud. sur Duplessis. Je ne sais pas si ça va s'accentuer au cours des prochaines minutes. Henri IV, direction sud, à hauteur de Charest, de l'attente aussi. Capitale, direction ouest, entre Laurentienne, ça remonte jusqu'à Henri Bourassa, Storeau. Même chose pour Laurentienne, direction sud, pour rentrer sur Capitale. Et quand même, vous mentionnez qu'un ralentissement s'installe tranquillement, pas vite, sur Capitale, en direction est, cette fois-ci entre Pierre-Bertrand et Boulevard Neuvial. Quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021 par texto.
Il veut battre le record Guinness du plus grand nombre de festivals en 30 jours. Ça veut dire d'avoir été dans le plus grand nombre de festivals en 30 jours. Il va faire suer Max Larouche, qui savait probablement pas qu'il y avait ce genre de record Guinness-là, et surtout s'il l'atteint. Il s'appelle Julien Renaud, il est au bout du fil. Bonjour, Julien.
Allô.
C'est quoi cette idée-là?
En fait, c'est venu... Ça fait 4 étés là, que je fais la tournée des festivals. J'ai fait 63 spectacles, 170 l'été passé, puis là, tout le monde me demandait, coudonc, t'es en train de faire un record ou quoi que ce soit. Fait, j'ai dit, je vais regarder ce que je pourrais faire pour l'été prochain. Et j'ai fait ces démarches-là là, au terme de l'été dernier, puis j'ai ciblé ce record à battre cet été.
Ça, c'est un vrai record qui existe, donc de faire le plus de festivals en le moins de jours possible. Là, on est à 30 jours. Et tu pourrais atteindre ce record-là en fin de semaine à Cigale, ici, à la baie de Beauport. C'est ça qu'on comprend?
Oui, exact. Le record actuel qui a été fait en 2011 en Europe, c'est 26 festivals différents en 30 jours. Là, je suis rendu à 24 en 21 jours. Donc, je devrais, là, si tout se passe bien, selon mon itinéraire, arriver à 27. Donc, passer le record à Cigale, à Beauport, dimanche. Il va quand même me rester une autre semaine là, pour juste beurrer épais et battre le record bien comme il faut. Mon itinéraire me ferait terminer à 34 festivals en 30 jours. Donc, voilà.
Mais là, ça va vite comme ça. Est-ce que tu es fatigué? Moi, je t'entends, j'entends ta voix. J'ai l'impression que tu es en mode repos là, pour un chargement de batterie pour finir ton record puis l'atteindre. Mais Julien, tu étais où? Parce que les festivals, là, faut prendre la route, faut faire des kilomètres, faut pas travailler, puis faut y assister.
Ouais, là, j'approche les 10 000 kilomètres. J'ai fait de la route en masse cet été. J'ai continué à travailler quand même, là, surtout les lundis, mardis, c'est plus tranquille. Mais je te donne l'exemple, la semaine dernière, là, mercredi, Rimouski, jeudi, Shawinigan, vendredi, Lévis, samedi, au Saguenay pour deux festivals, puis dimanche à Montréal pour Oshiaga. Plus cohérent ce week-end, là, j'étais à Drummondville hier, Victoriaville aujourd'hui, Lac Mégantic samedi, puis je remonte pour aller retravailler au Saguenay lundi, mardi, je remonte par Pied-de-Beauport dimanche.
As-tu un
chauffeur? beaucoup de déplacements. Non, c'est moi le chauffeur dans tout ça.
T'as pas de chauffeur, t'as pas de chef personnel pour t'alimenter. T'as cette idée-là, oui, de faire le plus de festivals possible en l'espace de 30 jours, mais ça te donne quoi? Est-ce que tu vas avoir ton nom dans le livre des records Guinness?
On n'a pas la certitude d'être dans le livre imprimé, parce qu'il y a quand même une masse de records qui est fait chaque année, mais je pense qu'il y aurait quand même des bonnes chances, parce que c'est un record qui est quand même facile à expliquer, puis à illustrer, puis pas trop... pourrait prendre pas trop de place. C'est que oui, il y a des chances que je sois dans le livre officiel, mais sinon, c'est sur le répertoire en ligne là, de Guinness là, qu'on peut voir tous les records, puis je vais avoir un certificat officiel, puis tout ça. Donc, ouais, j'ai toutes les démarches d'homologation là, à faire une fois que c'est terminé. J'ai des témoins à chacun de mes festivals, des photos, des preuves vidéo, photos. Donc, il y avait un gros cahier de charges là, à respecter pour que ce soit un record officiel.
Et de ce que je comprends, tous tes festivals, la majorité, étaient au Québec, du moins presque tous.
Oui, 100% au Québec, c'est important. Pour moi, au début, j'avais quelques dates à Toronto, Ottawa, puis j'ai tout enlevé ça pour le faire 100% Québec. Donc, le record actuel a été fait en Europe, dans 5-6 pays, où il y a encore beaucoup plus d'offres. Et je trouve ça le fun de le battre en montrant qu'il y a de l'offre en masse dans une seule province ici au Québec. Puis qu'on est capable là, d'avoir des festivals à toutes les semaines. Il y en a tellement qu'il fallait que je fasse des choix à chaque jour.
Oui, puis il y a des bandes aussi qu'il fallait que tu choisisses à travers tout ça. Julien Renaud, tu essaies de battre le record Guinness du plus grand nombre de festivals en 30 jours jusqu'à maintenant. Et tu le termineras, on espère, à Cigale le dimanche. Quel festival t'a le plus impressionné avec quelle bande cet été?
Mon meilleur show festival en même temps, je pense que la noce à Chicoutimi, puis je viens de là, mais il y avait l'événement spécial cette année d'avoir le phénomène mondial Angine de Poitine qui vient de Chicoutimi sur place en plein cœur du buzz actuel, puis je l'ai vécu avec une madame qui était venue de l'Australie pour les voir, donc elle s'est payé le trip d'une vie pour venir voir Angine de Poitine dans leur ville natale, donc partager ce trip-là avec elle, c'était vraiment spécial. Sinon, dans mes shows coups de cœur, il y a Lord à Oshiaga, c'était vraiment une mise en scène hallucinante. Gwen Stefani au Festival d'été de Québec, que ça faisait longtemps que je voulais voir, que j'ai adoré son spectacle. Dans le Québécois, là, Alphonse Dusaillon, Béatitude, qui sont des noms à surveiller. J'ai trippé sur un petit festival comme Ultime à Shawinigan. Je me sentais dans une fête foraine, cirque, bohème, hippie. C'était vraiment spécial. Fait qu'il y a vraiment une grande variété au Québec.
Oui, parce que tu as les shows, mais tu as aussi l'ambiance puis le caractère bien spécial de chacun de ces festivals-là. Julien Renaud, on te souhaite bonne chance. Tu es à veille de terminer ton marathon de festival. Fais attention parce que notre collègue Max Larouche, s'il t'entend, il va vouloir te dépasser l'an prochain. Ça se peut que ton règne ne soit que d'un an.
Ah, il n'y a pas de problème. Tant que je l'ai au moins quelques jours.
Salut, Julien. Félicitations, c'est drôle. Puis l'initiative fait sourire.
Merci.
Hey, ça, là, Max, je te dis, s'il entend ça, il va vouloir le faire.
Mais là, en même temps, hey, c'est quelque chose. Max, il n'y a pas de voiture. Il ne va pas pouvoir faire ça.
Ah, mais là, c'est peut-être un problème.
Hey, 34 festivals en 30 jours. Faites un calcul, ça fait plus qu'un festival par jour.
Mais moi, ça me fascine à quel point il y a des records Guinness puis il y a des choses à battre dans le monde puis dans la vie. Tu sais, de se dire, hey, le plus grand nombre de festivals en 30 jours, ça, c'est un record Guinness. Tu pourrais avoir ton nom pour avoir accompli ça dans ta vie. Pas peu dire, mais... En même temps, très drôle.
Mais c'est un trip qui se fait. Moi, je trouve ça beau là, de dire, oui. Hey, j'en profite, je me fais un trip, je m'en vais faire un beau tour. Tu sais, il fait le tour du Québec comme ça. Il fait le tour du Québec, voit toutes les plus belles places du Québec. Et en même temps, tous les meilleurs festivals du Québec. Je trouve quand même ça cool qu'il se réserve ça ici, dans notre province.
Et puis, tout le monde a consulté le livre des records Guinness là, dans sa jeunesse. Il était tout le temps dans la bibliothèque, dans nos écoles aux primaires. Il y en avait des épouvantables, il y en avait des drôles, mais il y en avait des horribles aussi, là, comme comment est-ce qu'on peut étirer le plus notre peau. Là. Il y en a qui avaient des affaires d'anneaux sur leur corps, le plus d'anneaux sur son corps. Il y en avait qui c'était se casser des noix sur la tête, là, le record de combien tu peux t'en casser sa tête. Je me rappelle, c'était jusqu'à 155 noix dans le livre des records Guinness.
Des fois, c'est ridicule.
Il y a de tout. Ça nous fait pas gagner le prix Nobel, par exemple. Mais pour Julien Renaud, vous allez pouvoir le croiser à Cigale en fin de semaine, dimanche en fait. Hey, c'est tout pour moi, c'est tout pour toi. Pour le rush de l'été, tu t'en vas dans On en jase dans un instant avec Jeff Fortin. Mais ensuite, tu retournes sur la route, Mathias, pour la prochaine saison.
Oui, bien exact. Je vais être journaliste terrain. Là, je vais comme faire du terrain puis le show du midi pour les prochaines semaines. Là. Donc, vous allez pouvoir m'entendre dans On en jase, notamment avec Jean-François Fortin. Pascal, merci pour tout. Ça a été un plaisir de partager mon été avec toi.
Merci, Mathias. Ça a été un plaisir de partager même mon année avec toi. Puis merci à tous ceux qui m'ont donné la chance d'avoir un micro ici à Boulevard 102.1 dans les 5 dernières années à peu près. J'arrondis, là, ça faisait 4 ans et demi. Ça a été un bonheur, un privilège. Puis, il ne faut pas oublier qu'on fait ça pour vous. Donc, à chaque fois que vous avez des choses à dire, 418-971-1021, quand vous avez des choses à écrire, des petits, des grands problèmes, des bonnes nouvelles, des mauvaises, écrivez à vos animateurs, parlez avec vos animateurs. Il faut faire vivre la radio. C'est un média traditionnel qui va rester toujours, qui est là en temps de crise, qui est là dans le bonheur, qui est là en temps électoral. Il y a du beau et du bon monde qui travaille à la radio. Il ne faut pas que ce médium-là se meure. Puis merci à tous les commanditaires, les partenaires aussi d'affaires avec la radio. Vous faites une grande différence dans nos vies, mais on essaie de faire une grande différence dans vos vies aussi. Puis la radio, elle est forte, la radio, elle est belle.
Et d'ailleurs, n'hésitez pas à utiliser ce numéro-là pour dire au revoir à Pascal CV une dernière fois. Bonne chance pour la suite, Pascal.
Merci,
et au plaisir de se recroiser
mon
bientôt.
Beau Mathias. Ben oui, avec bonheur. Puis pour la suite, ben j'en ai parlé en début d'émission. On suit sur les réseaux sociaux. Puis vous allez tout savoir en temps et lieu. Mais c'est pour des belles et bonnes raisons. Je suis mon cœur, je suis mon envie. Et vous, suivez aussi votre cœur, votre envie. Pour la prochaine année, c'est tout ce que vous méritez, comme je dis toujours. C'est le bonheur, les belles relations, l'amour, puis vous dépasser en tant que personne. Passez une belle année. Puis on se retrouve peut-être plus rapidement que prévu, mais peut-être dans d'autres contextes. Salut Mathias, salut tout le monde. Et je laisse le micro à tous ceux que j'ai aimés ici à Boulevard 102.1, entre autres Jeff Fortin, avec qui j'ai passé la dernière année. Il va être là dans On en jase. Salutations à vous tous, magnifique équipe et magnifique gang d'auditeurs.